Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Voici le programme du jour. Vous êtes un touriste à Paris, vous souhaitez vous rendre dans l'un des lieux les plus emblématiques de la capitale, la Tour Eiffel, le Champ de Mars, eh bien, méfiez-vous, réfléchissez à deux fois. Insécurité, trafic en tout genre, vol à l'arraché et jeu d'argent gangrène. Ce symbole de la France, oh, désolation. On va en parler car vous le verrez, c'est loin d'être anecdotique. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier de Fréjus-Plage, à pleine vitesse, une voiture va percuter un piéton, une voiture, un automobiliste, que dis-je, un délinquant notoire qui a refusé d'obtempérer à un contrôle policier. À la fin, un homme, un SDF, meurt renversé. Les refus d'obtempérer conduisent à des drames. Les minimiser est une grave faute, nous en parlerons également. Après le fiasco du Stade de France, les Jeux Olympiques de 2024 inspirent les Français, mais ils leur inspirent de l'inquiétude. Sondage à l'appui, vous le verrez. Des professeurs qui manquent à l'appel, une pénurie d'enseignants, des postes qui restent vacants. C'est aussi la réalité de nos écoles et de l'éducation nationale. Focus tout à l'heure en Gironde et plus largement, y aura-t-il une pénurie d'enseignants à la rentrée? Notre ministre de l'Éducation dit non. Est-ce qu'on est rassuré? À suivre. Voilà pour le programme. Et tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Olivier.
Bonjour Sonia, et on va débuter avec la politique. Et Elisabeth Borne qui continue ses consultations pour former un nouveau gouvernement d'action. Pour la deuxième fois, la Première ministre consulte les groupes parlementaires avec pour objectif eh bien, trouver un accord pour voter les prochains textes de loi. Olivier Marleix, président des députés LR, a lui été reçu ce matin et il affirme que la discussion avec la majorité présidentielle, eh bien, elle est possible. On l'écoute.
On lui a redit que nous étions un groupe d'opposition, donc évidemment il n'était pas question de quelque coalition que ce soit, mais qu'on était là pour essayer de trouver des solutions pour les Français, pour le pays. On va avoir un certain nombre de textes sur lesquels je pense qu'on doit pouvoir travailler ensemble. La question du pouvoir d'achat, à l'évidence, je dirais, on est tous préoccupés par la situation de la dégradation du pouvoir d'achat des Français. Donc c'est un premier texte sur lequel je crois qu'on doit pouvoir essayer de progresser ensemble.
Et une journée politique chargée, puisque l'on connaîtra le ou la présidente de l'Assemblée nationale dans quelques heures, Yael Braun-Pivet, l'ancienne ministre des Outre-mer et la favorite pour le perchoir. C'est la candidate de la majorité relative du gouvernement. Et si elle venait à être élue, elle deviendrait la première femme présidente de l'Assemblée nationale. Et puis les salaires des fonctionnaires qui va augmenter de 3,5% au 1er juillet, annonce ce matin du ministère de la fonction publique. 5,7 millions de fonctionnaires concernés. Après cette mesure, plus aucun fonctionnaire ne sera rémunéré au niveau du SMIC. C'est en tout cas ce qu'affirme le ministère. Et puis le procès de Jean-Marc Reiser à présent à son ouverture hier. Il a nié vouloir tuer Sophie Le Tan. Le cadavre de l'étudiante de 20 ans, je vous le rappelle, avait été découvert dans une forêt en 2018. Aujourd'hui, c'est la personnalité de Jean-Marc Reiser qui continue d'être étudiée avec plusieurs témoins. Noémie Schulz, bonjour. Vous êtes en direct de Strasbourg. La cour d'assises a entendu ce matin justement une enquêtrice de personnalité.
Oui, une femme qui a rencontré Jean-Marc Reiser à trois reprises en prison. Elle est venue faire en quelque sorte un résumé de sa vie, son parcours scolaire, professionnel, son casier judiciaire, son rapport aux femmes. Très attentive, Jean-Marc Reiser prend des notes, fait parfois non de la tête. Et je trouve cette enquête parcellaire et plutôt à charge, commente-t-il quand le président lui donne la parole. Il relie alors ses notes, se montre très prolixe. Il apporte des précisions quand un point lui semble inexact. Non, je n'ai pas croisé Michel Fourniret en prison. Il n'était pas encore incarcéré. Mais oui, je voyais Guy Georges et Francis Holm. Il refuse de s'attarder sur son enfance. Oui, j'ai été battu, je n'ai pas envie d'en parler. Question de pudeur. Il s'emporte quand le président évoque les deux viols pour lesquels il a été condamné par la justice. Le premier, je le reconnais, mais le deuxième, je suis réellement innocent dans cette histoire. Jean-Marc Reiser évoque enfin la médiatisation autour de l'affaire et de la disparition de Sophie Le Tan. J'ai l'impression d'être une bête de foire. Dès que j'ai été arrêté, j'ai été désigné comme le coupable. Murmure choqué dans la salle d'audience. Oui, et on n'avait pas tort, lui répond sèchement l'avocat des parents de Sophie Le Tan.
Merci beaucoup Noémie pour toutes ces précisions. Noémie Schulz et les images de Sacha Robin pour CNews. Est-ce que l'on se dirige vers un retour de masques dans les transports? C'est la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, qui l'a évoqué hier. Alors, il ne sera pas obligatoire, mais il est fortement conseillé pour freiner le retour de l'épidémie. Les détails avec Vincent Farandèse.
Voilà une image que l'on pourrait voir de plus en plus. C'est en tout cas ce que souhaite la ministre de la Santé, le retour du masque dans les transports.
Je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais en tout cas je demande aux Français de remettre le masque, oui, effectivement, dans les transports. Vous savez, il suffit de regarder un hall de gare ou un train bondé pour savoir que d'abord il faut se protéger soi-même parce que c'est un variant qui est très transmissible. Et puis il faut protéger les autres et notamment les plus fragiles.
Une recommandation partagée par certains médecins.
Si on veut mettre en place une mesure et qu'elle soit effective dans l'immédiat, la plus rapide, ce n'est pas la vaccination, c'est celle du retour du masque dans les lieux à haut risque de circulation. C'est ce qu'on applique à l'hôpital, ce qu'on applique dans les EHPAD, et c'est ce qui manque, je pense, dans les transports en commun, qui sont un lieu de brassage où le traçage est impossible. Et clairement, on voit bien une symétrie de la reprise de cette épidémie depuis qu'on a levé l'ensemble de ces précautions.
Des mesures pourraient être annoncées dès la semaine prochaine pour freiner la reprise épidémique.
Et de l'économie pour clore ce journal avec une innovation, la naissance du timbre numérique que La Poste lance ce matin. Les détails avec Eric de Ritmaten.
Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
Et oui, je voulais vous en parler de ce timbre numérique. C'est une première, ça n'existait pas en France. Il y a bien des timbres qu'on achète sur Internet, mais il faut une imprimante ou alors se rendre au bureau de poste. Eh bien, La Poste a décidé de lancer ce timbre numérique. Alors, c'est très simple, il faut l'application La Poste. On tape un numéro, on achète un timbre lettre verte, moins de 20 grammes, 1,16 €. Et puis, vous avez ce code qui apparaîtra. Il suffira de mettre ce code sur votre enveloppe blanche et voilà, le tour sera joué. Alors, il y a un paradoxe, c'est qu'il ne s'est jamais envoyé aussi peu de lettres. Je donne un chiffre, 18 milliards en 2008, plus que 7 milliards de lettres par an maintenant. Mais derrière tout cela, il faut voir que La Poste veut se numériser, se digitaliser, se moderniser. 300 millions d'euros viennent d'être investis pour une partie, bien sûr, pour le timbre numérique, mais surtout aussi pour les petites consignes électroniques qui vont se développer à La Poste. Je termine par là. C'est pour envoyer, vous savez, les colis par e-commerce. Il y en aura de plus en plus. Il en est prévu 2000 en 2023. Comme ça, vous recevrez directement votre colis à La Poste avec le smartphone, comme toujours. Et oui, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que sans smartphone, la vie deviendra de plus en plus difficile.
C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
Midi News, vos débats avec nos invités autour de cette table. Maître Pierre Gentier qui nous accompagne, merci d'être là et bonjour à vous.
Bonjour.
Samuel Fitoussit avec nous, bienvenue. Bonjour. Et bonjour, fondateur de la Gazette de l'étudiant, le retour de Jean-Loup Bonamy, merci d'être là. Bonjour. Est spécialiste en géopolitique, anime une excellente émission le samedi sur CNews. Et monsieur,
à 11h.
Voilà, monsieur Philippe Doucet, qui est membre du bureau national du Parti Socialiste, ancien maire d'Argenteuil. Est-ce qu'il vous arrive parfois de flâner, de vous promener comme ça, le nez en l'air dans la capitale, Philippe Doucet?
Oui, ça m'arrive, j'aime bien le faire
méfiez-vous.
Le soir.
Ah bah, voilà, encore
donc,
pire.
Voilà.
Donc, et où allez-vous? Est-ce que vous allez parfois aux abords de la Tour Eiffel? Est-ce que vous faites
rarement,
comme...
parce que en fait, c'est un lieu
ça m'intéresse pas,
toute
votre
totalement
vie.
Touristique et donc
si
c'est un lieu où je pense qu'il n'y a plus beaucoup de Parisiens qui vont.
Que j'avance. Oui, mais enfin, il y a des Parisiens qui vivent à côté et ça devrait être la vitrine de Paris, le symbole de notre capitale, la Tour Eiffel, les abords de la Tour Eiffel livrée malheureusement, à l'insécurité, au vol, au trafic en tout genre. Alors bienvenue, chers touristes, voici Paris avec Jeanne Cancard.
C'est l'un des sites touristiques les plus prisés, mais aussi l'un des plus sensibles de la capitale. Sur le Champ de Mars, les vols à l'arraché et les jeux d'argent pour arnaquer les passants sont nombreux. La cible principale de ces délinquants, les touristes étrangers. Mais si parmi eux, certains sont inquiets et prudents...
Nous avons un peu peur car nous entendons plein d'histoires de personnes qui se font voler leurs affaires, donc on essaye vraiment de faire attention.
J'ai l'impression que Paris est l'une des villes où les touristes se font le plus dépouiller.
Je ne porte pas de montre, je garde mon téléphone sur moi et surtout, je suis vigilant.
D'autres se montrent plus insouciants.
Je me sens en sécurité, tout le monde a l'air très gentil, même quand je marche la nuit.
Face à eux, les délinquants multiplient leurs ruses pour tenter de dérober bijoux, téléphones et porte-monnaie. Ici, ce jeune garçon semble errer pour repérer discrètement une proie potentielle. Là, cette femme tente d'attirer l'attention de touristes en leur demandant de signer une pétition. Bernard habite le quartier depuis plus de 40 ans et s'inquiète de la violence grandissante.
J'ai ça en tête, une dame qui a été agressée à coups de bouteille, parce qu'elle se refusait sans doute à lui céder son porte-monnaie.
Les quelques commerçants du Champ de Mars, eux aussi, sont spectateurs et impuissants face à cette délinquance omniprésente.
Ils sont tous les jours là, hein, c'est pas d'aujourd'hui, ils sont toujours là et ils se font attraper, ils disent qu'ils ont toujours 16 ans, mais en fait non,
ça devient un cauchemar. Ouais.
Pour tenter d'endiguer le phénomène, des opérations policières ont régulièrement lieu, mais elles semblent aujourd'hui insuffisantes face à l'ampleur du problème.
Et je vous livre un autre témoignage d'une touriste qui a notamment indiqué se sentir en insécurité, dit-elle. On ne sait jamais, mais quelqu'un peut vous voler. Lorsqu'on prend une photo, c'est un sentiment bizarre, mais je m'y habitue. Moi, je trouve ça, Pierre Gentil, je m'y habitue. Je trouve que c'est affligeant pour la France d'entendre un étranger de dire, bah, écoutez, on s'y habitue, ça fait partie du décor, c'est Paris, c'est comme ça.
Oui, c'est dramatique, effectivement. C'est-à-dire qu'on, vous avez raison, on s'habitue à une société qui baigne de plus en plus dans l'insécurité. On s'habitue à ne pas sortir dans certains endroits à Paris le soir, parce qu'il n'y a pas que les touristes. Hein. Là, on parle des touristes, mais moi, par exemple, je sais que je ne vais pas au Champ de Mars le soir, de même que je sais que je ne remonte pas les jardins du Trocadéro le soir. Mais si quelqu'un veut faire l'expérience et pense qu'il n'y a pas d'insécurité en France, on peut inviter la maire de Paris, Anne Hidalgo, à se balader dans les jardins du Trocadéro sans aucun problème le soir à 23h. Elle verra qu'il n'y a aucune difficulté. Plaisanterie mise à part, oui, évidemment, Paris, ça dépend où vous habitez dans Paris. Quand on a la chance, ce qui est mon cas, d'habiter effectivement plutôt dans certains arrondissements centraux, bah, on préfère y rester, voyez-vous, typiquement le soir quand on sort. Mais on s'habitue à ça. Vous avez raison, on s'y habitue. Alors qu'on ne devrait pas, s'y habituer. Et pardonnez-moi, là, je rebondis sur ce que vous passiez là comme reportage. En l'occurrence, on faisait référence à des mineurs qui sont responsables de ces agissements vis-à-vis des touristes. En fait, on sait que dans la majorité des cas, il s'agit de mineurs isolés. C'est-à-dire, ce qu'on appelle des mineurs isolés, c'est des personnes qui sont en situation irrégulière et qu'on ne peut pas expulser.
Et
qui se font d'ailleurs, j'allais le dire, ouais. Et qui se font passer pour des mineurs isolés. Évidemment, on n'a pas vraiment de moyens de vérifier, mais parfois, quand on voit un peu les profils, on se demande s'ils ont 16 ans ou s'ils ont 30 ans.
Il y a une enquête qui a été faite qui est 80% des mineurs étrangers en France ne sont pas mineurs.
Mais vous voyez, un tel sujet, on peut avoir tendance à dire, écoutez, c'est anecdotique, c'est le 7e arrondissement de Paris, ça arrive, c'est pas très grave. Mais en fait, rien n'est anecdotique, d'abord parce que c'est l'image d'un pays, c'est la vitrine de la France. Et moi, la question est la suivante, est-ce que le Champ de Mars illustre un peu les mots à Maux de la France? Insécurité, on n'arrive pas à lutter contre justement les mineurs. Ben oui, mais il y a tout ça, contre la police qui est débordée, l'État et la mairie impuissantes, immigration, travail clandestin, pardon de tout mettre comme ça dans le même sac, mais désordre, saleté aussi. Est-ce qu'il n'y a pas ici un concentré de tout ce qui ne va pas?
Mais aujourd'hui, vous êtes délinquant. Le Champ de Mars, c'est un très bon champ de chasse parce que vous avez beaucoup de... C'est quasiment que des touristes aujourd'hui qui vont au Champ de Mars. Je mets à part les riverains qui habitent là, mais ceux qui sont directement en train de se prendre en photo devant la Tour Eiffel ou qui montent, etc. Et en fait, ils viennent, eux, avec leurs habitudes de leur pays. Donc c'est vrai que quand vous êtes au Japon, vous avez zéro insécurité.
Et nous, notre culture, c'est quoi? C'est l'insécurité.
C'est parce que j'ai dit que c'était normal, si vous me laissez.
C'est pas la culture de notre pays, c'est la norme, normalement.
Non, mais normalement, c'est la norme. Et donc, effectivement, il y a un écart de norme où, naturellement, nous avons intégré. Que, bah, on fait attention aux sacs,
c'est grave,
etc.
Ça, parce que vous dites, mais cette
donc,
réalité
coup,
est grave.
Voilà. Donc du coup, moi, ce que je pense à un moment donné, sur ce type de lieu, ça existe aussi sur les Champs-Élysées.
Mais ça, depuis longtemps, oui. Merci de nous éveiller à la réalité.
Peut-être que, comme ça se passe dans un certain nombre d'autres pays, pour le problème des effectifs de police, je pense qu'à un moment donné, il y a une police touristique qui devrait s'installer, parce que derrière, si vous n'avez pas à demeure des équipes policières par rapport à ça, et qu'une les délinquants ne sont pas chassés.
Les policiers, écoutez-moi, les policiers pâchent quasiment, je ne sais pas, mais attendez, régulièrement, vous savez ce qui se passe?
Ils restent.
Les vendeurs, en fait, prennent sur leur dos toutes les mini-tours Eiffel, ils courent, etc. Les policiers courent derrière, ça slalom entre les voitures, ils reviennent une heure après, ils sont déjà réinstallés.
Ils jouent
aussi un moment.
Mais à un moment donné, si vous avez, comme ça existe dans certains d'autres pays, certains d'endroits, moi j'ai vu ça en Colombie, j'ai vu ça au Brésil. Eh ben, vous avez des logiques de voilà des endroits où ça existe au Maroc aussi. Hein, à la place de Jamaa Lefta au Maroc, vous avez une équipe de police touristique permanente. Eh bien, il faut que ça soit permanent parce qu'autrement, les pauvres touristes continueront à se faire dépouiller vu les écarts de normes et sur leur téléphone portable.
On les tolère. Les vendeurs à la sauvette, on les tolère. Il y a des commerçants.
Ça, c'est un choix politique.
Mais on n'est pas obligé. Mais c'est l'État et la mairie surtout. C'est pas moi.
La mairie est pour rien. C'est pas la mairie qui a le pouvoir de police.
Anne Hidalgo n'a pas moyen.
Anne Hidalgo n'a pas de shérif. Elle n'a pas un shérif sous ses ordres.
Là, elle n'est pas responsable de la saleté.
Là, on est sur la question de la sécurité. C'est l'État en France qui a le pouvoir de.
Il n'y a pas que la délinquance. Pardonnez-moi, pour les riverains et les. Attendez, je vais placer une phrase en entier. Pour les riverains et les commerçants, il y a aussi la saleté. Vous avez des commerçants. Attendez, j'ai pas fini ma phrase. Vous avez des commerçants qui payent à prix d'or des boutiques. Ben oui,
mais. Non, mais la question de la saleté, c'est la ville de Paris. La question de la sécurité, c'est l'État.
On va se mettre d'accord pour cette émission, c'est que vous laissez tout le monde parler.
Pour la sécurité, justement, la police est déjà là et fait le travail. Il y a des dizaines de policiers tous les soirs au Trocadéro et ça ne résout pas le problème. Donc pour moi, la question, c'est il y a deux problèmes, deux manières de le résoudre politiquement. Un, le problème de l'immigration, comme Serge Gentil l'a souligné, et deuxièmement, le problème de la réponse pénale. Pourquoi ces délinquants agressent et détroussent des touristes en toute impunité? C'est parce qu'ils n'ont pas peur de la réponse pénale. Ils savent qu'au pire, ils sont emmenés au commissariat, ils passent une nuit et ils sont relâchés.
A fortiori quand ils sont mineurs.
Exactement. Et donc, je pense qu'on prend le problème de la réponse pénale à l'envers. On se dit, ce jeune homme a commis un crime, est-ce qu'il vaut mieux le mettre en prison 6 mois au risque qu'il se radicalise dans la violence ou est-ce qu'il vaut mieux le relâcher? Et on arrive souvent à la conclusion qu'il vaut mieux le relâcher, ce qui est peut-être vrai. Mais en fait, on passe à côté de la vraie question qui est que si il savait qu'il risquait d'aller en prison 6 mois en ayant agressé ce touriste, il ne l'aurait pas agressé en premier lieu. Et donc, avec une vraie réponse pénale et en appliquant les peines de prison courtes, on résoudrait considérablement ce problème de la délinquance.
On va poursuivre le débat. Il est essentiel, générale. Je vous disais, c'est quand même un concentré de tous les mots. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Il me semble quand même qu'Anne Hidalgo, elle a une responsabilité, je ne fais pas une fixation ni une obsession, mais pour les migrants mineurs. Et sur le refus aussi, par exemple, de l'armement de la police municipale. Là, il y a une responsabilité, je ne me trompe pas.
Oui, enfin, sur la police municipale, enfin, moi, j'ai armé la police municipale d'Argenteuil, donc je suis très
à l'aise. Mais je vous parle pas de vous, je vous parle de Paris.
Mais derrière, faut avoir en tête, les gens pensent qu'un policier municipal, c'est important, c'est un rôle très important, ça n'a pas les pouvoirs de la police nationale.
Mais ça relève des prérogatives de la mairie.
Je suis d'accord, mais par exemple, un policier municipal ne peut pas interpeller, saisir une personne, ouvrir un coffre de voiture, etc., par exemple. Leurs pouvoirs ne sont pas les mêmes.
Allez, c'est News Info et on revient.
Face à l'inflation, le gouvernement souhaite accorder un chèque alimentaire d'au moins 100 euros plus 50 euros par enfant. Seraient concernés les allocataires du RSA, du minimum vieillesse et des APL, soit près de 9 millions de foyers. Le coût global de cette mesure s'élèverait à un peu près d'un milliard d'euros. Jour J pour l'ouverture du sommet de l'OTAN à Madrid. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Alliance Atlantique sont attendus dans la capitale espagnole. Alors que le G7 vient de s'achever en Allemagne, la guerre en Ukraine et les derniers bombardements russes seront au cœur des discussions. Et puis Joseph Schutz, condamné à 5 ans de prison. L'homme de 101 ans est le plus vieil accusé de crimes nazis en Allemagne. Cet ancien sous-officier des SS a été jugé coupable de complicité dans le meurtre de 3518 prisonniers entre 1942 et 1945.
Retour au débat. Pourquoi je vous pose la question et pourquoi on fait un focus sur le Champ de Mars? Parce que je pose cette question, comment est-ce qu'on peut soigner les maux de la France si on n'arrive pas à agir sur des choses aussi localisées qu'un quartier, qu'un lieu aussi symbolique et important que le Champ de Mars. Je voudrais aussi préciser que le préfet de police, et ça c'est une information, refuse souvent, même systématiquement, des événements sur le Champ de Mars pour des raisons de sécurité. C'est quand même, c'est-à-dire, on se pénalise nous-mêmes d'avoir des événements parfois de très grande qualité et de grande renommée parce qu'il y a des raisons de... Parce qu'il y a toute cette insécurité, Jean-Luc Bonamy. Donc moi, je veux bien les effectifs, mais au-delà.
Oui, c'est intéressant, et c'était très intéressant le témoignage de la touriste que vous avez lu, parce que en effet, moi, je suis allé plusieurs fois exprès me promener à 23h ou à minuit au Trocadéro pour voir justement...
Ah, c'était vous ?
Si, moi, je suis, non, je suis un simple badaud, un simple témoin, discret et sympathique. Et donc, pour voir si ce qu'on raconte est vrai ou si c'est exagéré. Bon, et en fait, ça rejoint totalement ce que disait cette touriste, c'est-à-dire que évidemment, il ne m'est rien arrivé, mais vous voyez ce qu'elle déclarait, c'est-à-dire une sorte de climat étrange où vous voyez des gens qui sont visiblement sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, des bandes qui s'affrontent, qui se jettent des bouteilles, des cris. C'est une forme d'atmosphère en fait très étrange et omniprésente, très prégnante. Je comprends qu'on n'ait pas envie de rester là en effet, voilà, vous avez des cris, vous avez des gens qui courent dans tous les sens, on ne comprend pas bien pourquoi. Voilà, des vendeurs à la sauvette, c'est exactement ce que vous décriviez. Ils sont en train de vendre tranquillement. Tout d'un coup, ils aperçoivent un uniforme et on voit qu'avec un très grand professionnalisme, immédiatement, ils remettent tout dans leur besace, ils s'en vont, ils réapparaissent à un autre endroit 5 minutes plus tard. Donc, vraiment, cette impression de cours des miracles, d'atmosphère permanente qui est très, très frappant. On peut, voilà, c'est évident dès qu'on y met les pieds. Et on voit que ça frappe les endroits les plus symboliques de la France, puisque la Tour Eiffel, je pense que c'est le monument non seulement le plus connu en France, mais même le monument le plus connu dans le monde, tout pays confondu, bah, vous avez cette délinquance permanente. Mais je crois qu'à Saint-Denis, où je suis allé aussi pour voir à quoi ça ressemblait, moi j'ai vu qu'à Saint-Denis, à 50 mètres de la nécropole des rois de France, vous pouvez acheter une burqa pour enfants dans un commerce. Voilà, j'en ai vu une, enfin même plusieurs. Donc il y a ce sentiment que même les endroits les plus prestigieux ou du tourisme français ou de son histoire sont complètement déliquescents.
La question, c'est ceux qui nous dirigent, quelle que soit la couleur politique, est-ce qu'ils ne veulent pas, ne peuvent pas, n'osent pas? Je vous donne là un témoignage de Rachida Dati, qui connaît évidemment très bien ce sujet, qui est maire du 7e, qui est ancien garde des Sceaux, qui nous dit « Le commissariat du 7e débordé de gardes à vue de mineurs isolés qui ne le sont pas en réalité. »
Qui ne sont ni mineurs ni isolés.
Et qui sont remis en liberté systématiquement, sans poursuite, malgré les agressions graves et autres cambriolages. Donc la question des moyens, bien sûr, mais quand on interroge l'idéologie, ce n'est pas pour faire des fractures, c'est pour comprendre pourquoi une telle impuissance aujourd'hui.
Et encore une fois, Macron, pendant le débat présidentiel, s'est déclaré ouvertement défavorable à l'exécution des peines de prison courtes en dessous de 2 ans, il me semble. Donc évidemment, ces délinquants-là n'auront pas peur parce que la justice ne joue pas en France son rôle dissuasif. Après, il y a aussi le problème, effectivement, de l'immigration. J'ai trouvé des statistiques d'un rapport parlementaire de mars 2021, pardon, qui montre que les mineurs isolés dont on parle sont à l'origine de 30% des cambriolages à Paris, 44% des vols à l'arraché et 32% des vols avec violence. Donc si on veut s'attaquer à la source de ces problèmes, plutôt que de multiplier les effectifs de police, c'est ce problème de l'immigration illégale qu'il faut traiter et l'exécution des obligations de quitter le territoire français qui sont souvent données mais jamais réellement exécutées.
92% ne sont pas exécutés.
C'est tout ce qu'on dit, hein. C'est tout ce qu'on dit. C'est-à-dire, pourquoi sur des endroits localisés, on n'y arrive pas, alors qu'on nous fait des promesses sur toute la France? C'est ça la question.
Là, si on fait des promesses sur tout le monde, les questions d'insécurité, elles sont évidemment sur le champ de Mars, parce que, comme je disais tout à l'heure, vu les touristes, c'est un beau champ de chasse pour les délinquants. Mais la question de cette petite délinquance sans la minimiser, elle est généralisée partout. Voilà, sur les vols de téléphone portable, ça. Donc,
mais
ça,
Philippe, c'est la vitrine de la France. C'est pour ça que j'insiste. Vous me dites c'est partout. Je vous explique pourquoi c'est encore plus...
D'accord, ce que je veux dire par là, c'est que par rapport aux promesses, ce que vous évoquez sur les promesses, cette question-là, là, on la voit sur Paris, c'est l'image du pays, parce que quand vous êtes un touriste et que vous êtes fait braquer votre téléphone ou votre sac, vous rentrant chez vous, vous n'êtes pas ambassadeur de la France. Vous dites, vous racontez à vos amis que la Tour Eiffel, c'est peut-être sympa, mais vous êtes fait piquer votre téléphone, votre sac, etc. Le sujet par rapport à ça, c'est que, effectivement, c'est logique. Petite délinquance.
Vous ne traitez pas ça, il ne faudra pas ensuite venir agiter l'épouvantail du Rassemblement national. Vous ne traitez pas ça. Le commerçant qui a payé sa petite baraque, qui fait devant des sandwichs
de
à côté.
Des juges de paix américaines, des petits tribunaux qui traitent toute cette délinquance au fil de l'eau avec des sanctions immédiates. Donc moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Le problème, c'est que la justice est organisée dans un système pour traiter les cours d'assises, le correctionnel, le gros dispositif. Et que ces délinquances ne sont pas traitées.
Les mots, ça. Vous dites petite délinquance. C'est pas une petite. Il n'y a pas de
délinquance. Mais au sens petite délinquance, il n'y a pas de meurtre. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance pour la personne.
Alors, c'est ce que je veux vous dire. Il y a un mort qui a la délinquance.
Et donc, il faut entendre ce que je propose, Sonia. Je dis, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des tribunaux dédié à ça, parce qu'autrement, le système est tellement engorgé que ce n'est pas traité.
Et je pense quand même qu'il faut aussi ajouter une information complémentaire pour les téléspectateurs, c'est que la France est le seul pays occidental à avoir ce genre de problème, en plein cœur de sa capitale, lieu le plus à l'arrondissement le plus touristique, d'accord, à avoir tous les touristes dépouillés. Ce n'est pas le cas à Londres, ce n'est pas le cas...
Ça a été le cas à un moment donné, plus le cas.
À la limite, il y a Bruxelles qui peut être qui est comparable, mais Paris fait vraiment exception dans tout le monde occidental. Et on peut aussi donner un autre statistique, c'est que la France est vraiment dans la moyenne basse, très basse, en termes de nombre de places de prison par habitant. Et on peut peut-être voir une relation de cause à effet dans ces deux informations.
Bon, on va continuer à en parler. On va essayer de joindre Rachida Dati, parce qu'évidemment, elle connaît le sujet. J'aimerais bien l'entendre sur ce plan-là, parce qu'il y a les vols, il y a la saleté aussi. Et ça peut paraître mineur, mais c'est très important. Vous avez les riverains, vous avez les commerçants. Et puis, vous avez aussi des problèmes d'agression sexuelle qui sont de plus en plus relatés. Rarement, ça va jusqu'au commissariat. Rarement, il y a des plaintes, mais c'est une réalité aussi. Une marque courte pause et on continue d'en parler. Retour en plateau pour Midi News. En quelques instants, on va poursuivre notre débat. Tour Eiffel, Champ de Mars, les touristes face à l'insécurité. Nous serons avec la maire du 7e et ancienne garde des Sceaux, évidemment, Rachida Dati. Mais tout d'abord, le rappel des titres, c'est News Info.
Brigitte Bourguignon demande aux Français de remettre le masque dans les transports en commun. Sans aller jusqu'à l'obligation, la ministre de la Santé évoque un devoir citoyen. Comme d'autres pays européens, la France est confrontée à un regain de contamination, notamment avec le variant BA5. 18 morts dans une frappe russe dans un centre commercial en Ukraine. Le bombardement a eu lieu à Kremenchouk, à 330 km au sud-est de Kiev. Selon l'armée russe, la frappe visait un dépôt abritant des armes occidentales. Et puis des températures extrêmes touchent actuellement la Chine. Vous le voyez sur ces images à Zhengzhou, dans le Henan. Des milliers de personnes affluent sur les plages. Les habitants ont pour consigne de rester chez eux en cas de température supérieure à 40 degrés.
Je vous le disais, elle est avec nous en direct, Rachida Dati. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci de suivre le débat, puisque vous réagissez depuis tout à l'heure, je le vois sur
le
téléphone.
C'est un sujet qui me concerne au premier plan.
Et depuis très longtemps. D'ailleurs, Rachida Dati, est-ce qu'on dit nouvelle délinquance ou est-ce que c'est une délinquance qui s'est enquistée? Et selon vous, quelles en sont les principales raisons?
D'abord, Paris est la seule ville de France. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais un peu surprise par les propos de M. Doucet. C'est la seule ville de France qui refuse de pouvoir apprécier l'âge des mineurs, des migrants mineurs. D'abord, la gauche a supprimé ce qu'on appelait les tests osseux qui permettaient l'évaluation de l'âge des individus qui se présentaient comme mineurs et comme migrants. Et donc, Paris refuse cela. Donc, c'est devenu la pompe aspirante de tous les migrants, mineurs ou pas mineurs, de toute la France. Parce qu'ils savent qu'à Paris, ils ne seront pas recensés. Et comme ils ne sont pas recensés comme mineurs ou pas, ils bénéficient de tous les dispositifs de protection des mineurs. Et donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la majorité des mineurs interpellés, enfin migrants, sont relâchés sans poursuite systématique, malgré la gravité des faits qu'ils commettent, que ce soit des agressions graves, des tentatives de viol. C'est pour ça que ce n'est pas de la petite délinquance. À un moment donné, il y a un sens des réalités. C'est-à-dire, nous, on est sur le terrain toujours. Donc, il y a plusieurs facteurs. Un, Mme Hidalgo, contrairement à M. Delanoë, souhaite, pour justement renflouer les caisses, elle commercialise le Champ de Mars. Le Champ de Mars, aujourd'hui, vous n'avez plus un mètre carré de végétalisation ou de lieu où vous pouvez, évidemment, vous promener, alors que c'est un site historique. Donc, le Champ de Mars est systématiquement commercialisée, malgré le refus du préfet de police, elle passe outre, puisque c'est la propriété de la ville. Le deuxième facteur, nous avons fait, nous la droite à Paris, nous avons obtenu la concrétisation de la police municipale, sauf qu'elle n'est pas armée. Donc en fait, c'est des agents de square, si ça revient à ça, puisqu'ils n'ont pas les moyens, évidemment, ou d'interpeller, ou de poursuivre, ou même de pouvoir se défendre contre une délinquance extrêmement violente. Troisième chose, c'est les MNA dont je vous parlais tout à l'heure. 80% des mineurs à Paris qui sont déférés sont des mineurs dits isolés. alors qu'on ne sait pas s'ils sont mineurs ou pas. 80%, je vous redonne le chiffre. Et d'ailleurs, le coût de ces mineurs, qui n'en sont pas forcément, a explosé entre 2016 et aujourd'hui, plus de 20%. Moi, je le regrette parce que c'est de l'argent qui n'est pas mis au profit des vrais mineurs en difficulté. Et puis, le refus d'installer des caméras. Enfin, quelle ville au monde aujourd'hui, sur des sites qui reçoivent le plus... Enfin, nous recevons, c'est le lieu le plus fréquenté de France. Nous n'avons pas... La mairie de Paris refuse l'installation et l'extension de caméras de vidéoprotection.
Moi,
parce
donc
que
pour
Madame
vous,
Hidalgo
oui.
est prise en otage par les élus verts.
Donc pour vous, moi je posais la question, je dis mais est-ce qu'il y a une impuissance, une non-volonté d'agir, ils n'osent pas agir, vous nous dites non, ils refusent, c'est ainsi.
Ah bah, la mairie de Paris, elle refuse, puisqu'elle ne veut pas enregistrer, elle est mineure, en tous les cas considérée comme telle, ça c'est le premier point, elle refuse parce qu'elle ne veut pas armer la police municipale, elle refuse parce qu'elle ne veut pas installer de caméras de vidéoprotection, et elle refuse parce qu'elle commercialise un site historique. Vous parliez de propreté. C'est le lieu où il y a le plus de rats. La ville de Paris refuse de dératiser puisque les écologistes considèrent que c'est un équilibre, enfin, c'est nécessaire à la biodiversité. Il y a plus de 6,5 millions de rats à Paris qui sont, comme chacun sait, les premiers vecteurs, évidemment, de problèmes d'hygiène et sanitaire. Voilà le constat qui est fait.
Constat, Rajda Dati, moi, ce que je dis là sur ce plateau, je dis ce n'est pas anecdotique. Vraiment, quand je dis c'est le symbole, mais je le dis avec désolation. Personne ne peut être content. C'est le symbole des mots, des différents mots que nous avons réglés pour notre pays. C'est pour ça qu'on vous a repris, Philippe. C'est qu'on a dit petite délinquance. Il n'y a pas de petite délinquance.
Attendez, petite délinquance, parce que ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance. Bien au contraire, parce que en tant que j'étais maire d'Argenteuil, donc les questions de petite délinquance, c'est ce qui pourrit la vie des gens plus que les meurtres, parce que heureusement, il y a moins de meurtres que de petite délinquance. Bon, moi, je n'ai pas rentré dans le débat avec Rachida Dati avec Anne Hidalgo, bon.
Bah si, quand même.
Si je peux répondre par rapport à ça. Derrière, après. Par contre, je peux vous dire qu'à Argenteuil, aujourd'hui, il n'y a pas qu'à Paris où il y a des problèmes de ce type de délinquance sur des mineurs par rapport à ça. Non, parce que Mme Dati dit c'est Paris la seule ville de France. À Argenteuil,
oui,
aujourd'hui, on a 50 personnes tous les jours devant la gare qui font du trafic de cigarettes, de médicaments, de cannabis.
Bah, écoutez, on est rassurés. C'est partout en France.
On est dans un commissariat. Et je peux vous dire que tout le monde est le premier par rapport à ça.
Madame Mabrouk et Monsieur Doucet, vous ne pouvez pas dire que c'est partout comme ça. C'est faux. Toutes les villes, quand il y a des mineurs dits isolés, moi je regrette que le gouvernement Hollande ait supprimé les tests osseux parce que j'étais magistrat et c'était très utile. Et moi je regrette que Paris soit la seule ville de France où les individus qui se présentent comme mineurs, qui n'en sont pas discutés avec les commissaires, qui n'en sont pas, ne soient pas recensés comme non mineurs, parce que les poursuites dans ce cas-là ne seraient pas les mêmes. Aujourd'hui, le budget de la ville de Paris a explosé sur la prise en charge de ces mineurs qui ne sont pas mineurs, et ça, c'est la seule ville de France. Paris est devenue la pompe aspirante.
Pardonnez-moi, mais sur le tribunal de Pontoise, sur les mineurs, vous avez le même sujet. Et pardonnez-moi, depuis 2017, il y a quelqu'un, vous connaissez bien Monsieur Darmanin, Dupond-Moretti, etc. Toutes ces logiques-là, si vous pouviez être en désaccord, et c'est votre droit, les tests osseux n'ont pas été remis. Ces logiques-là, le préfet de police, il a quand même un rôle. Vous êtes bien placé à Paris pour savoir que préfet de police, c'est une ville, Paris, avec une histoire particulière, avec un préfet de police extrêmement puissant que vous n'avez pas partout. L'État aussi a un rôle par rapport à ça.
Non,
vous pouvez changer
Anne
Hidalgo, c'est normal, c'est le jeu.
Non,
mais le préfet de police, il a un rôle très important.
Non, mais non, vous ne voulez pas l'entendre. Est-il normal qu'à Paris, on ne recense pas comme les autres villes de France, comme à Argenteuil? Est-il normal qu'à Paris, on ne recense pas les individus, parce qu'on a un moyen d'apprécier l'âge ou pas? Pourquoi Paris refuse de
se soumettre à... Philippe, attendez. Pourquoi par idéologie? Moi, je veux comprendre pourquoi il y aurait une exception dans la capitale.
Voilà. Pourquoi il y a une exception? C'est la seule ville de France. Paris est la pompe aspirante pour les individus qui ne sont pas mineurs et qui peuvent être reconnus comme tels à Paris.
Non. Bon, Rachida Dati, merci en tous les cas. Réaction importante en direct, puisque vous nourrissez le débat. Évidemment, vous connaissez la situation sur le terrain. Je vous dis à bientôt et merci de nous suivre sur CNews. Non, mais... C'est intéressant la réponse. Ce n'est pas que à Paris.
Non, il y a un petit problème là quand même.
Allez-y.
Non, mais c'est que Rachida Dati, ce qu'elle dit, c'est très intéressant, c'est étayé. C'est une personnalité qui est connue pour son franc-parler, donc ça, c'est très bien. Mais en même temps, en tant qu'ancienne candidate au municipal, en tant qu'opposante politique à Anne Hidalgo, bien sûr que son intérêt c'est de charger Anne Hidalgo. Mais
oui,
du coup,
peut aussi s'appuyer sur les faits.
Oui, mais les faits, c'est que à Bordeaux, à Nantes, à Rennes, il y a d'énormes problèmes.
Mais
de
s'il vous plaît, vous n'allez pas rassurer les téléspectateurs en disant que ça. Je demande à Bordeaux.
Structurel, le manque de places de prison. Voilà.
Je vous dis, est-ce que ce n'est pas.
Attendez, personne ne dit. Excusez-moi. Là, je vais pas me faire l'avocat de Rachida Dati en l'occurrence. Mais là, on ne dit pas que tous les problèmes.
Non, mais
ils nous disent
c'est la seule ville à la mairie.
Non, on nous dit qu'il y a des. Moi, de ce que j'entends ici, ça serait intéressant de vérifier si Paris est vraiment la seule ville qui refuse d'enregistrer les mineurs. Mais en l'occurrence, pourquoi est-ce que la mairie de Paris refuse de faire ce type de vérification?
Les caméras de CNews, mais ce sont des faits et la réalité qu'on décrit. Je ne dis pas que ça n'existe. Attendez, je vais finir une phrase. Je ne dis pas que ça n'existe pas ailleurs. Je vous dis que nous avons pris la vitrine. Enfin, c'est exacerbé quand même à Paris.
D'accord.
Allez vous promener un certain.
On ne dit rien de tout ça.
On ne va pas s'habituer à l'inaction.
Vous ne pouvez pas sortir la nuit à Bordeaux, à Rennes ou à Nantes.
Ce qu'on dit
pour les mêmes raisons.
Ce qu'on dit simplement, c'est que quand Rachida Dati dit que c'est à Paris, ce n'est pas le cas.
Mais vous, vous êtes dans un combat, vous êtes socialiste comme Madame Hidalgo.
Ce n'est pas le cas, j'ai le problème aujourd'hui.
C'est pas un reproche d'être socialiste.
C'est pas qu'à Paris.
Elle dit juste que toutes choses égales par ailleurs, il vaut mieux pouvoir dater les mineurs. Et c'est probablement vrai, ça aurait résolu le problème.
Oui, mais dans ce cas-là, qu'elle discute avec Gérard Darmanin.
C'est incroyable, vous savez. Attendez, Philippe. C'est la méthode trotskiste, je l'avais dit. Il monopolise la parole. Je l'ai connu.
J'ai jamais été trotskiste.
C'est tout comme. Vous savez, depuis tout à l'heure, on est en train de débattre des faits, mais on n'a pas apporté une solution. Moi, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez dire, oui, c'est pas la seule, mais qu'est-ce qu'on fait pour la vitrine de la France?
Il y a des solutions au niveau local, il y a des solutions au niveau national. Voilà, on ne dit pas, et là, ce qui est dit ici, c'est pas que la mairie de Paris est responsable de toute l'insécurité, de même qu'elle n'est pas responsable du phénomène migratoire qui est lié à l'insécurité ici. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'il y a des mairies qui se donnent plus les moyens d'agir que d'autres. Voilà, là, en l'occurrence, effectivement, cette question de refus d'enregistrer les mineurs, ça me paraît quand même un outil qu'on peut interroger la mairie de Paris pour leur demander pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas cet outil. Et ensuite, effectivement, et là, je vous rejoins, mais les deux se couplent. Il y a une réponse nationale à porter.
Vous en voulez plus puisque une réponse pénale. Puisque vous voulez ne pas parler de Paris, je vais continuer à en parler. Vous allez voir maintenant ce qui se passe, mais en lien avec le crack. Alors, je ne dis pas que c'est lié à ce qui se passe au Champ de Mars, mais là, vous allez voir. Parce que vraiment, là, ce sont des scènes quotidiennes pour les toxicomanes. Et d'ailleurs, on peut aussi parler de la santé mentale de certains de ces craqueurs, c'est un vrai sujet. Certains disent qu'il faut les enfermer pour les soigner. Mais quand ils ne veulent pas, qu'est-ce qu'on fait? En tous les cas, les commerçants sont dépassés. Et vous allez voir aussi un témoignage vraiment saisissant d'un gardien d'immeuble qui fait tout pour protéger ceux qui habitent justement l'immeuble. C'est un sujet qui est signé, je vous le dis tout de suite. Je ne veux pas me tromper dans ceux qui ont réalisé ce sujet. Yael Benhamou.
Allez, au revoir, monsieur. Monsieur, merci. Allez.
Pour acheter une boisson.
Monsieur, c'est un tard de monsieur dame.
Pour acheter une boisson.
Ces scènes sont quotidiennes dans ce restaurant depuis 9 mois.
C'est
tard comme ça. C'est bien filmé. C'est tout le temps, c'est comme ça.
Depuis décembre, la décision a été prise de déplacer plus de 150 consommateurs de crack à la frontière entre Pantin et Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Depuis, ce restaurateur est dépassé par la situation.
On appelle la police ne vient pas, la police ne fait rien. On a perdu beaucoup de chiffres d'affaires. Si on continue comme ça, on va fermer le restaurant.
Ce gardien d'immeuble, lui, lutte tous les jours pour assurer la sécurité de ses clients. Les craqueurs essayent de rentrer par tous les moyens pour se droguer au calme. Il y aurait même de la prostitution, comme cette femme qui tente d'escalader l'entrée de ce bâtiment pour se cacher et travailler à l'abri des regards. Le gardien raconte qu'il n'hésite pas à les déloger.
Des fois, ils ont commencé à préparer leur dose. Ils me disent, tu me laisses terminer. Des fois, c'est un petit peu chaud, mais bon. Et c'est pas évident. Toute la journée, je cours après eux. Je suis là depuis 18 ans. C'est la première fois que je vois une telle chose.
Ce gardien nous a confié ne pas partager son quotidien éprouvant avec sa compagne et ses enfants pour les préserver.
Et là encore, ce sont des débats qui durent depuis des années. Samuel Fitoussi. On a l'impression quand même que, pardonnez-moi l'expression, que beaucoup de gens s'en fichent de ce qui se passe, et même de la situation des craqueurs et des toxicomanes eux-mêmes, puisqu'on ne peut pas porter toute la responsabilité sur eux.
Mais vous avez raison, moi ça me frappe à quel point les gens s'en fichent. Et j'ai l'impression que dans l'esprit des gens, on peut compartimenter les sujets. Il y a le sujet de la délinquance, du régalien et ça va pas, mais l'économie se porte plutôt pas mal. Les gens... Mais en fait, ces sujets interagissent entre eux. Et dans 10 ans, qui voudra continuer à investir en France si la situation continue à se dégrader et si de plus en plus de quartiers sont touchés par le problème du crack dans 10 ans, dans 15 ans, toutes nos élites partiront à l'étranger si la situation s'empire. Et économiquement, ça deviendra une catastrophe. Donc on ne peut pas continuer à compartimenter les sujets. Même d'un point de vue économique, ces sujets-là sont majeurs. Il faut les traiter. Ça devrait peut-être être la priorité des priorités. Et effectivement, je trouve qu'à part sur CNews, ils sont un peu trop relégués au second
plan. Alors il y a un sujet qui est très difficile. Il faut l'aborder. Et d'ailleurs, il résonne en nous parce que c'est un vrai sujet. C'est l'enfermement de ces personnes aussi. C'est-à-dire, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut enfermer pour soigner contre leur volonté? Là, je parle de ces toxicomanes, de ceux qui consomment le crack, parce qu'on voit des comportements, et pardon de l'expression, parfois de zombies dans les rues, avec des gens qui errent, qui ont le regard totalement hagard, qui ne sont plus
commettre
du tout
des
maîtres.
Aussi.
Je sais. Et oui, mais oui. Est-ce que vous soignez ou est-ce que vous emprisonnez?
Alors, c'est la question, c'est le sujet. En tout cas, pour l'instant, on est uniquement sur une réponse, en tout cas a priori, de santé publique, et même parfois pas du tout, puisque là, on est sur du déplacement.
Il y a zéro réponse.
Attendez, laissez-moi terminer. On ne fait que déplacer systématiquement le problème. Donc en fait, on va pourrir la vie d'autres riverains, et on navigue comme ça, à vue, et au fond, rien ne s'arrête, et on continue, et heureusement, d'ailleurs, à parler de ces sujets. Ici, la question qui est posée, à laquelle il faut une réponse, c'est de savoir si, pour maintenir l'ordre public... Parce que c'est une question d'ordre public. Vous savez, en droit, dans l'ordre public, il y a comme composante la santé publique et il y a aussi la sûreté publique. La question ici est de savoir quelle est la priorité. Moi, il me semble que, avant tout, c'est une question de sûreté publique. La consommation de stupéfiants, c'est un délit. Quand on consomme des stupéfiants, on sait, et moi, je n'avais pas besoin d'avoir 4 ans pour comprendre que consommer des stupéfiants, c'était mal et c'était un délit. D'accord ? Donc, quand ces gens ont décidé de consommer des stupéfiants, alors ils se sont mis en infraction vis-à-vis de la société. Donc d'abord et avant tout, c'est une question de sécurité publique et il faut effectivement, je pense, mettre ces gens à l'écart de la société et après, effectivement, si c'est possible, si on en a les moyens, encore une fois, on n'a pas systématiquement à aider autant qu'on le peut tous ces gens, mais à essayer en tout cas de leur apporter un soin, mais d'abord une réponse sur la sécurité.
Vous allez engager le débat parce qu'elle est très importante, la question punir ou soigner, parce que faire les deux, c'est compliqué, c'est même parfois antinomique.
Punir, j'aurais l'impression
ouais.
De
dire. Bah, les titres de l'actualité, on en parle tout de suite.
Clap de fin pour le sommet du G7. Depuis dimanche, les chefs d'État et de gouvernement étaient réunis en Bavière pour évoquer notamment la guerre en Ukraine. Ce mardi, le G7 s'est dit d'accord pour travailler sur le plafonnement du prix du pétrole russe. Le salaire des fonctionnaires augmentera le 1er juillet prochain, une revalorisation de 3,5% selon le ministère de la fonction publique. Il s'agit de la plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans. Et puis Joseph Schulz, condamné à 5 ans de prison, l'homme de 101 ans est le plus vieil accusé de crimes nazis en Allemagne. Cet ancien sous-officier des SS a été jugé coupable de complicité dans le meurtre de 3518 prisonniers entre 1942 et 1945.
Voilà, je vous le disais, ces scènes quotidiennes de toxicomanes, de craqueurs, avec des commerçants, des restaurateurs qui sont dépassés. Vous avez vu cette scène aussi de ce gardien d'immeuble qui fait tout pour protéger ce pourquoi d'ailleurs il travaille. C'est l'immeuble et c'est la tranquillité finalement des habitants d'un immeuble. Quand je dis tout le monde s'en fiche, c'est vrai, on en parle depuis tellement longtemps. Et souvent avec les... Bah, vous avez des analyses pertinentes et originales, mais c'est vrai qu'on revient toujours au même constat.
Alors, je vais faire deux remarques. La première, c'est que oui, puisque je me souviens très bien qu'en 2004, à l'époque j'étais en classe de première, j'avais vu par hasard un reportage sur le crack à Stalingrad et avec une association qui s'appelait les Pères de Stalingrad et qui essayait de lutter contre déjà le trafic de stupéfiants. Donc ce qui me surprend, c'est ce que j'essaye d'analyser par ailleurs, c'est l'inertie totale des pouvoirs publics. On voit, on sait, depuis des décennies, sur toutes sortes de sujets, parce qu'il n'y a pas que la sécurité, il y a l'effondrement de l'hôpital, l'effondrement du niveau scolaire. Maintenant, ça fait 10, 20, 30 ans que ces sujets sont sur la place et pourtant, on ne fait rien. Donc ça serait intéressant d'essayer d'en comprendre les raisons. Donc voilà, premièrement, l'inertie. Et donc, bien sûr, comme on ne fait rien, ça s'aggrave. C'est-à-dire que ça existait déjà en 2004 et aujourd'hui, c'est encore pire qu'en 2004. Bon, et maintenant, la deuxième chose, c'est que j'ai essayé un peu de me renseigner sur les faits. Donc, j'ai consulté un psychiatre spécialiste dans les addictions, addictologue, et qui travaille en prison. Et ce que lui me dit, c'est très intéressant. En plus, ce n'est pas du tout quelqu'un qui, sur le plan politique, serait conservateur ou voilà, vraiment pas le soupçonner d'être pro-prison. Il me dit que souvent, punir et soigner ne s'opposent pas et que pour les toxicomanes eux-mêmes, la prison est une chance. Et en fait, il est assez surpris parce qu'il reçoit toutes sortes de consignes du ministère qui sont complètement déconnectées de la réalité. On lui dit il faut absolument assurer la continuité des soins en prison. Mais il répond oui, mais il n'y avait pas de soins quand ils étaient un peu en prison.
Donc punir et voilà, soigner, ce n'est pas contradictoire.
Ils vivaient dans la rue, sans respecter des horaires réguliers, sans avoir le moindre soin, la moindre prise en charge médicale, psychologique ou psychiatrique. Et c'est quand ils arrivent en prison qu'enfin, grâce à la prison, ils peuvent avoir des soins. Donc organiser la continuité, non, parce que ça serait la continuité de rien. C'est au contraire en prison que les choses se mettent en place. Et c'est quand ils quittent la prison que là, on peut s'inquiéter pour eux parce qu'ils sont de nouveau remis dans la nature et les choses peuvent de nouveau très vite se dégrader. Et ils sont plutôt mieux quand ils sortent que quand ils entrent. Et là, c'est un psychiatre addictologue qui est sur le terrain et qui est vraiment pas, qu'on peut pas soupçonner de conservatisme.
Et quand bien même, on peut citer tout le monde. Hein.
Moi, je suis d'accord évidemment qu'il faut pas opposer punir et soigner. Il y a une autre
punir pour soigner.
Un autre mécanisme par lequel, en punissant, on soigne, c'est qu'on attaque le problème à la source encore une fois et que les gens ne sombreraient peut-être pas dans le crack ou en tout cas moins si ils avaient plus peur de la réponse pénale. Il y aurait moins de dealers dans les rues, il y aurait moins de consommateurs et il y aurait moins de gens à soigner. En fait, on ne résoudrait pas le problème en punissant maintenant, on ne résoudrait pas le problème des crackheads d'aujourd'hui, mais on résoudrait celui des crackheads de demain, dans 10 ans, et on stopperait ce cercle vicieux de délinquance et de drogue.
Lucas, vrai sujet, nos caméras y reviennent régulièrement, malheureusement, pour constater... Et rien ne bouge. Et oui.
Je sais, il y a un an, on avait fait un débat.
Je sais, ouais. Je m'en souviens. Dans un an, on en fera un autre.
On en fera dans un an.
Les JO 2024, qui est pour? Non, c'est pas la bonne question. Mais non, mais justement, ça y est, c'est fait, évidemment. C'est qui est inquiet de la sécurité autour des JO. Vous allez voir, c'est une majorité de Français, quel que soit les clivages politiques. Après le fiasco du Stade de France, ils s'inquiètent de la tenue de ces JO. Je vous parlerai de ça. Je vous parlerai de la pénurie des enseignants, des professeurs. C'est très important. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Et puis, on ira à Bordeaux, où le CHU, c'est l'un des plus importants de France, hein, est en grève. Vous allez voir que là, on n'est pas en train de débattre du masque et du pass sanitaire, mais de ce qui est essentiel, des soins, évidemment. À tout de suite. La suite de Midi News et beaucoup de sujets à vous soumettre qui vont vous intéresser. D'abord, j'y tiens avec ce refus d'obtempérer. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. On va en parler. Et c'est un piéton, un SDF qui a été renversé et qui a été tué. Nous en parlerons. La sécurité, les JO de 2024. Vous allez voir un sondage extrêmement important. Il dit beaucoup quand même du sentiment d'insécurité, comme on dit. Les professeurs, nous en parlerons. Pénurie peut-être à la rentrée. Et puis le CHU de Bordeaux, on sera sur place. Mais tout d'abord, place au journal. Rebonjour à vous, Olivier.
Rebonjour Sonia, rebonjour à tous. Et on va démarrer avec ces mots d'Emmanuel Macron. Ils ont été prononcés il y a quelques secondes. La Russie ne peut et ne doit gagner. Les sanctions seront maintenues aussi longtemps que nécessaire. Des mots lors du discours qu'Emmanuel Macron est en train de dire au sommet du G7 qui s'achève donc aujourd'hui. Et la situation en Ukraine, bien évidemment, au cœur des échanges. On y reviendra tout au long de l'après-midi. La situation politique en France à présent est Elisabeth Borne qui continue ses consultations pour former un nouveau gouvernement d'action. Pour la deuxième fois, la première ministre consulte les groupes parlementaires et un objectif, trouver un accord pour voter les prochains textes de loi. Pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, les Républicains pourraient devenir des alliés. Écoutez-le.
Je souhaite depuis très longtemps que les LR rejoignent le président de la République, ça ne vous aura pas échappé, comme je l'ai fait avec Bruno Le Maire ou Édouard Philippe ou Sébastien Lecornu. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de différences. On en a quelques-unes, il ne faut pas les nier, mais je pense que sur l'essentiel...
Il pourrait y avoir quelques débauchages.
Mais comme disait le général de Gaulle, justement, ne faisons pas de petits soupes sur le petit feu, mais sur l'essentiel, on est d'accord. On est d'accord sur la sécurité, on est d'accord sur les finances publiques et l'économie. On est d'accord sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. On est d'accord pour qu'il y ait des baisses d'impôts.
Ça, c'est déjà pas si mal.
Et puis, on doit connaître d'ici quelques heures le ou la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, l'ancienne ministre des Outre-mer et la favorite pour le perchoir. C'est la candidate de la majorité relative du gouvernement. Et si elle venait à être élue, elle deviendrait la première femme présidente de l'Assemblée nationale. Les salaires des fonctionnaires vont augmenter de 3,5% au 1er juillet, annonce ce matin du ministère de la fonction publique. 5,7 millions de fonctionnaires concernés. On écoute le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini.
L'augmentation du point d'indice vient s'ajouter aux augmentations moyennes individuelles qui existent dans la fonction publique. Ces augmentations, elles sont d'1,5% pour l'année 2022, et ceci pour les trois versants de la fonction publique. C'est donc 3,5% d'augmentation du point d'indice qui viennent s'ajouter à 1,5% d'augmentation moyenne générale dans la fonction publique sur la fiche de paie. C'est donc une augmentation moyenne de 5% qui sera traduite pour l'ensemble des agents de la fonction publique.
Et la revalorisation salariale, c'est justement l'une des revendications des soignants du CHU de Bordeaux. Ils sont appelés à une grève illimitée par les syndicats. Autre demande, des embauches. Le personnel soignant a un été en effet très compliqué avec l'afflux de vacanciers. Le manque de salariés, je vous le rappelle, a déjà poussé la direction à filtrer l'accès aux urgences après 17 heures depuis la fin mai. Et puis après 89 ans de bons et loyaux services, l'horloge parlante ne répondra plus, et ce à partir de vendredi. Dans les années 1990, le fameux numéro 3699 traitait encore plusieurs millions d'appels par an. Elle a ensuite perdu peu à peu ses fidèles. Un reportage de Reda Mrabri.
Quatrième top, il sera 11h45.
C'est la fin d'une époque. À partir de vendredi, appeler le 3699 ne sera plus possible, l'horloge parlante n'existera plus. Service créé dans les années 30 pour permettre à la population de connaître avec précision l'heure exacte, l'horloge parlante connut un succès grandissant durant le XXe siècle. L'avènement d'Internet et des téléphones portables ont finalement eu raison de cet outil, mais ce ne sont pas les seules explications. Selon les ingénieurs, le réseau de transmission est devenu beaucoup trop désuet pour donner une heure suffisamment précise. Autre problème, le prix. Le service est encore facturé à 1,50€ la minute. L'horloge parlante ne concentrait plus qu'une dizaine de milliers d'appels à l'année.
Il sera exactement 19h59.
Et dans un instant, place au débat Midi News, Sonia Mabrouk et ses invités. Mais avant, un mot sur le sport. Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur de Nice. Le club a annoncé la nomination de Lucien Favre. C'est un ancien du club. Christophe Galtier est désormais libre de s'engager avec le club de son choix. Et les voyants semblent au vert pour une signature au Paris Saint-Germain.
Retrouvez la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure. Piscineunibéo.com.
Avec le retour de Lucien Favre, l'OGC Nice a donc acté le départ de Christophe Galtier. L'entraîneur français quitte la Côte d'Azur après une saison marquée par la finale de la Coupe de France et une cinquième place en championnat.
On connaît à peu près la destination de Christophe. Ils ont encore des petites choses à régler, mais ça c'est de leur côté. Je ne vais pas me mêler de leur côté sur le plan juridique. Voilà, et encore une fois, je souhaite que Christophe fasse la meilleure des saisons pour lui possible. Et c'est une opportunité pour lui qui est fantastique à prendre. Voilà.
Et qui s'écrit à Paris. Le PSG aurait résilié le contrat de Mauricio Pochettino et s'est entendu avec Christophe Galtier pour trois saisons, dont une en option. Un transfert évalué à 5 millions d'euros qui devrait être officialisé dans la journée.
C'était la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure. Piscineunibéo.com.
Merci d'être avec nous. La suite de votre débat, on a beaucoup parlé de la première heure de Paris, pas pour faire une fixation sur la capitale, mais il est vrai que c'est quand même la vitrine de notre pays. On a parlé notamment de la Tour Eiffel, c'est ce qui se passe des touristes face à l'insécurité. Autre sujet, dans quelques instants, on va vous parler des professeurs. On va aller à Bordeaux pour voir ce qui se passe au CHU, qui est l'un des plus grands de France, qui est en grève. Tout d'abord, je présentais toujours autour de cette table nos invités, Maître Pierre Gentillet, Jean-Loup Bonamy, Philippe Doucet et le député Ensemble de Moselle. Bonjour Ludovic Mendès.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Merci d'être avec nous. Alors, beaucoup de sujets, mais ce sujet, pourquoi il me tient à cœur? Parce que je vous dis, parfois, il y a des sujets qui peuvent sembler anecdotiques, parce que malheureusement, cela arrive souvent, mais c'est très révélateur de beaucoup de choses, notamment ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier de Fréjus-Plage, à pleine vitesse. Vous allez le voir, malheureusement, les images sont terribles. Une voiture va percuter un piéton, une voiture, un automobiliste, un délinquant notoire qui est bien connu, comme on dit, des services de police, qui a refusé d'obtempérer à un contrôle policier. Et malheureusement, à la clé, en fin de course, c'est un piéton, un SDF, qui a été tué sur le coup. C'est un sujet d'Adrien Spiteri et de Yaël Benhamou. Regardez.
À pleine vitesse, cette voiture percute un piéton. Le drame s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier de Fréjus-Plage. Au moment des faits, le conducteur du véhicule tentait de prendre la fuite après un refus d'obtempérer. Connu comme délinquant notoire, le chauffard a été interpellé par la brigade anticriminelle à Saint-Raphaël et placé en garde à vue. Pris en charge par les secours et conduit à l'hôpital, la victime renversée est décédée. L'homme était un sans domicile fixe.
Alors pourquoi ce sujet ? Maître, parfois certains disent, oui, il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Écoutez, c'est pas si grave. Parfois, on n'a pas le permis sous la main, ni l'assurance. Et puis, il y a des refus d'obtempérer. On passe au-dessus de l'autorité. Voilà. Bon, les conséquences sont là. C'est des drames, bien souvent, pour cet homme, pour sa famille, évidemment.
Bien sûr. Il y a 26 000, pour vous donner un chiffre exact, il y a 26 000 refus d'obtempérer sur l'année 2021.
C'est, oui, exactement.
C'est énorme. Ouais. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais parce qu'on parlait des réactions des policiers, il y a seulement 200 ou 201 cas dans lesquels les policiers utilisent leur arme pour ce refus d'obtempérer. Donc ça fait écho aussi à d'autres affaires. Là, c'est quelque chose de différent, mais on aboutit ici évidemment sur un drame, sur un profil en plus de, semble-t-il, quelqu'un qui avait déjà été condamné, qui était connu de la police. Alors moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel âge a cette personne, parce que souvent on a des profils de plus en plus jeunes et qui malgré tout ont un pédigré, je ne vais pas dire pénitentiaire, parce que parfois ils ne passent même pas par les prisons, mais en tout cas un pédigré judiciaire qui est assez impressionnant. Donc ici, encore une fois, il faut regarder là pour ce cas particulier, mais c'est clair qu'on sait que de manière générale, il faut une réponse pénale beaucoup plus forte, beaucoup plus musclée.
Quand on entend, évidemment, on va tous dire intolérable, on va dire inacceptable. Parfois, il peut y avoir des déclarations martiales des responsables, quels qu'ils soient, Ludovic Mendès. Mais est-ce que ce ne sont pas les conséquences vraiment, et ce n'est pas une volonté de tout englober, mais d'une autorité qui est bafouée? On dit, écoutez, refus d'obtempérer. Moi, je l'ai entendu parfois, ce n'est pas si grave. Parfois, on dit, écoutez, il y en a un toutes les 20 minutes en France, rendez-vous compte. Mais quand on aboutit à cela, est-ce que ce n'est pas... entre guillemets, c'est pas, il n'y a pas de petite délinquance, mais ces actes-là qui font aujourd'hui, ben, qui sont enquistés dans notre pays.
Alors tout d'abord, mes mots vont aller à la famille de la victime, hein, qu'il faut soutenir aujourd'hui, parce que encore malheureusement, une personne qui est décédée pour un refus d'obtempérer. Derrière, voir s'il n'y a pas une consommation d'alcool, de drogue ou alors non-présentation du permis de conduire, c'est le cumul. Je rappelle que la majorité des refus d'obtempérer, c'est des refus de souffler dans le ballon. Sur les chiffres qu'on donne, c'est surtout cette logique-là. C'est pas simplement les personnes qui ne s'arrêtent pas. C'est aussi parce qu'ils ne veulent pas souffler dans leur ballon. Et là, c'est aussi le père de famille, et j'allais dire bien sous tout rapport. C'est pas simplement sur un refus d'autorité. C'est juste qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne contrôle plus assez en amont les véhicules. C'est-à-dire que sur les défauts d'assurance, les défauts de permis, il y avait des choses qui avaient été mises en place, surtout en région parisienne, avec des caméras qui filmer les plaques d'immatriculation qui permettaient de limiter justement ce genre de choses et qu'on puisse derrière répondre à nouveau.
Moi, j'ai pas mon permis, je m'arrête. Le policier me dit,
principe,
je descends, j'arrête,
permis,
j'obéis, ce qu'il me dit.
Non, mais
ce que
on n'a pas le permis, on roule pas.
Non, mais d'accord, mais imaginons qu'on l'oublie et on se fait attraper, etc. Ou il y a un verre.
L'oublier, c'est autre chose. Là, c'est des personnes qui l'ont pas du tout.
Vous croyez pas que c'est quand même consubstantiel d'un certain comportement?
Mais il y aura toujours une minorité de Français qui auront ce genre de comportement. Et c'est pour ça qu'on a des personnes dans nos prisons. C'est pour ça que nos avocats ont beaucoup de travail. C'est pour ça que nos juges ont beaucoup de travail aussi.
Est-ce que vous êtes sûr qu'on a autant de gens en prison avec après des refus d'obtempérer? Est-ce que les sanctions sont à la hauteur?
Là, il a tué quelqu'un. Donc là, je pense que quoi qu'il arrive, c'est la perpète. Parce qu'il a refus d'obtempérer et en plus, il a tué quelqu'un. Donc faudra vérifier. Laissons aux juges et aux avocats de faire leur travail. Laissons les policiers apporter les réponses d'un point de vue judiciaire sur la première partie de l'enquête. On doit tous être d'accord sur le fait que quand un agent de police demande de s'arrêter, on doit s'arrêter. Quand il demande de présenter les papiers ou de souffler ou quoi que ce soit, si on a joué, on était en illégalité, il faut assumer les conséquences derrière.
Oui. Sauf que quand dans le débat public, on dit que la police tue, eh bien, certains ne vont pas s'arrêter, tout simplement, et encore plus.
Ça, c'est les amis de Philippe Doucet.
Oui, c'est pas totalement mes amis. Je rappelle que j'étais contre cet accord. Mais au-delà de ça, je pense qu'effectivement, dans ce que évoque Ludovic Mendès, la question de l'alcoolémie, moi, à un moment donné, il y a des pays où si vous soufflez
avant,
non, mais enfin, le refus d'obtempérer, quand, enfin, ça serait intéressant d'analyser. Il y a ceux qui n'ont pas le permis, c'est une chose. Il y a ceux qui ont peur quand on a un taux d'alcoolémie important, on a son retrait de permis.
Et donc, en fait, la tentation de la fuite pour éviter le retrait de permis, mais y compris parce que le niveau d'alcoolémie fait que c'est retrait immédiat et du permis et retrait du véhicule aussi, hein, donc immédiatement.
Mais on joue.
Donc, du coup, avait été examiné le fait, par exemple, que les voitures ne puissent démarrer que quand vous y soufflez dans le ballon.
Au lieu de travailler sur les voitures, est-ce qu'on ne devrait pas travailler sur la délinquance?
Non, mais c'est travailler sur la délinquance.
Travailler sur les voitures.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes alcoolisé, vous ne pouvez pas démarrer votre voiture. Vous voyez, parce que là, si la personne, ça serait intéressant, de toute façon, on va avoir la suite de l'enquête et c'est très
bien. La personne a un CV long comme le bras.
Voilà, non, mais il a un CV long comme le bras sur quoi? Sur des refus d'obtempérer, sur du trafic d'alcool.
Pas pour avoir aidé une vieille personne à traverser un.
Je me doute bien, sur du trafic de cannabis. Voilà, c'est sur quel type de délinquance il est connu sur les services de police.
Vous savez, Anna Arendt estimait que nos sociétés, en sacrifiant le passé, les valeurs, l'autorité qui est aujourd'hui dévoyée, ça l'a entraîné les pertes.
Je pense qu'il y a une demande d'autorité très importante dans la société. Une demande d'autorité très importante parce que les gens ont envie de vivre dans un cadre. Parce que le cadre est quelque chose qui d'abord rassure, qui pose des règles de vie communes. Parce
protège.
Que si on n'a pas de cadre, c'est la jungle, ça devient la jungle. La société, c'est le fait qu'on ait des règles qui nous permettent aux uns et aux autres de vivre librement en respectant l'autre. S'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de liberté quelque part.
Jean-Loup Bonamy, mais une réaction sur... Je tenais à ce qu'on diffuse ce sujet en particulier. On parle souvent des refus d'obtempérer, c'est vrai, les policiers, et on peut voir aussi les conséquences dramatiques pour les citoyens, pour tout autre citoyen, pour les
piétons. C'est aussi des voitures super puissantes, j'ai l'impression que là, c'est une espèce de...
Jean-Loup Bonamy.
Non, je pense que ça a toujours existé, mais ce qui devrait nous alerter, c'est l'augmentation statistique qu'on constate de ce nombre de refus d'obtempérer et qui, elle, est indéniable. Et c'est simplement l'un des innombrables aspects de la crise de l'autorité et du délitement de l'autorité. Vous disiez qu'il y a une demande d'autorité. Bah oui, justement, il y a une demande parce qu'il y a une crise d'autorité et un manque d'autorité. Et ça se traduit surtout... Alors, ça commence dès l'éducation, mais on voit bien la crise de l'autorité à l'école, par exemple, et la remise en cause de toutes les figures d'autorité. Mais ça va jusqu'à des choses beaucoup plus concrètes. Par exemple, justement, vous avez fait déjà 10 refus d'obtempérer. En fait, avant d'être jugé, il faut des mois et des mois et des mois. Les peines ne sont pas appliquées. Or, on sait, et pour le coup, c'est démontré et par les psychiatres et par l'expérience, que plus que des peines longues, il faut des peines qui soient immédiatement appliquées. Et par exemple, les Pays-Bas qui ont fait un énorme investissement, qui ont construit des places de prison, même maintenant, ils louent leurs places de prison à des États étrangers, et bien aux Pays-Bas, ça a eu des résultats spectaculaires, et notamment sur les refus d'obtempérer. C'est des peines courtes, mais certaines et immédiatement
courtes,
exécutées.
Rapprochées dans le temps par rapport à l'infraction.
Exactement.
Mais bon, c'est ce que là pour le coup, c'est...
Parce que si même vous faites votre peine psychologiquement,
absolument. Non,
mais... c'est très
pas
dur.
D'accord
si, non, je suis tout à fait d'accord.
Psychologiquement. Logiquement, on sait si par exemple vous faites un refus d'obtempérer et après vous êtes arrêté, vous vous sentez mal, vous culpabilisez un peu, mais si vous ne purgez votre peine que 2 ans plus tard, on sait que psychologiquement l'esprit humain ne peut plus faire le lien véritable au plus profond de lui-même entre la faute et la peine. Donc des peines peut-être courtes, mais rapprochées, certaines, immédiatement exécutées.
Psychologie, justice, école, bon, voilà un cocktail.
Et par exemple, aux Pays-Bas, ça a été spectaculaire. Et donc, du coup, les fameuses places qu'ils avaient construites, comme ils les ont utilisées, maintenant, ils n'en ont plus besoin.
C'est
ils les louent à des États étrangers.
De rappeler, de parler de ce drame, parce que souvent, ça passe sous les radars de l'actualité. C'est une personne, peut-être, parfois SDF, certains en parleront moins.
Vraiment 5 secondes. Oui. Vous vous souvenez, par exemple, ça avait fait la une, on en avait beaucoup parlé ici et dans plein d'autres médias, de ce SDF Ali, qui avait été traîné par une bande. On en avait énormément parlé. Il est mort quelques semaines plus tard, en partie à cause du choc psychologique qu'il avait subi. Et là, on n'en a plus du tout parlé. Et on ne sait d'ailleurs plus du tout ce que devient cette affaire. On avait dit oui, ils vont prendre perpétuité et tout. On ne sait plus du tout où en est cette affaire. Même sa mort, on n'en a pas beaucoup
d'où
parlé.
D'où l'importance des suivis judiciaires.
Et aussi du suivi médiatique.
Je vais justement passer une demi-journée, moi, avec la CRS autoroutière en Moselle pour voir un peu comment ça se passe, justement. Parce que
concrètement.
On peut avoir échangé dernièrement avec eux. C'est vrai qu'il y a aussi le bon père de famille qui, aujourd'hui, refuse parfois d'obtempérer. Il faut qu'on fasse attention à ça.
Bien sûr, mais le délitement de l'autorité, ça gagne toutes les strates de la société.
Tout le monde veut tricher.
C'est un problème endémique. Oui, absolument.
Les Jeux Olympiques dans quelques instants. Vous allez voir, alors vous n'allez pas être surpris du sondage, mais quand même, je vais vous montrer.
Est-ce que c'est possible de changer de pays pour l'organisation des Jeux 2024?
D'abord les titres. Quelle ironie, il est taquin aujourd'hui. C'est News Info de suite.
Face à l'inflation, le gouvernement souhaite accorder un chèque alimentaire d'au moins 100 euros plus 50 euros par enfant. Seraient concernés les allocataires du RSA, du minimum vieillesse et des APL, soit près de 9 millions de foyers. Le coût global de cette mesure s'élèverait à près d'un milliard d'euros. Brigitte Bourguignon demande aux Français de remettre le masque dans les transports en commun. Sans aller jusqu'à l'obligation, la ministre de la Santé évoque un devoir citoyen. Comme d'autres pays européens, la France est confrontée à un regain de contamination, notamment avec le variant BA5. Et puis, 46 migrants retrouvés morts dans un camion au Texas. Les cadavres ont été découverts à l'arrière du poids lourd par les pompiers de San Antonio. Des victimes qui ont probablement succombé aux fortes chaleurs dans l'habitacle. Selon les autorités, 3 personnes ont été interpellées.
Je voudrais qu'on parle rapidement, mais quand même qu'on s'arrête sur ce sondage. Vous vous souvenez évidemment tous, et malheureusement c'est une cicatrice pour beaucoup de Français, le fiasco du Stade de France, c'était le 28 mai dernier. Et puis, va bientôt arriver, doucement, je vous rassure, hein, Monsieur Bonamy, parce que j'ai compris que vous n'étiez pas un grand fan des Jeux Olympiques.
Ah si, moi, je suis un grand fan des Jeux Olympiques, mais pas à Paris.
Du spectacle.
À la lumière de ce qu'on vient de voir, il est peut-être urgent de reconsidérer...
La question a été posée. Le gouvernement et la sécurité, faites-vous confiance tout simplement aux autorités, quelles qu'elles soient, pour organiser...
On vient de passer une heure à dire qu'il y avait un énorme problème de sécurité en France et à montrer des dizaines d'exemples un peu partout dans le pays.
C'est pas faux. Donc, à mon avis, ceux qui ont répondu à la question...
C'est l'impact du Stade de France avec...
Évidemment. Non, mais c'est l'impact de ce que les gens voient au quotidien autour d'eux dans leur vie.
En plus,
quoi.
Là, ils
sortent, ils regardent autour d'eux, ils ont vite compris
mais
quand même.
Il y a ça, mais il y a autour d'un événement, d'un match de foot qui est quand même quelque chose qu'on organise régulièrement. Ils ont quand même bien vu le niveau comme ailleurs s'est passé. D'ailleurs, j'ai été frappé que ce matin, finalement, le ministre de l'Intérieur ait fini par s'excuser.
Du bout des lèvres.
Bon. Mais finalement, il aurait gagné
après des semaines de déni.
À le faire tout de suite.
Moi, je vous dis, est-ce que ça, ce n'est pas les conséquences plutôt du déni? Plutôt que il y a les images, mais aussi du déni pendant... Oui, c'est le gouvernement que vous soutenez, monsieur Mendès. Hmm. Hein, ce n'était pas la faute aux Anglais, hein.
Il y a eu pas mal de problèmes, mais
on va continuer dans le déni.
Du tout la faute des Anglais qui ont été les victimes.
La réponse qui avait été apportée et avait été bien au-dessus de ce qu'on aurait dû apporter comme réponse à ce moment-là sur le fait de gazer des familles et des choses comme ça. Mais c'est un sondage
Pardonnez-moi, il y a gazer les. Je n'emploie pas ce mot, mais utiliser des gaz lacrymogènes. Et il y a la délinquance aux abords du stade.
Oui, mais on avait quand même 40 000 personnes qui avaient rien à faire là. Mais ça, c'est un débat qu'on ne va pas
refaire.
Il n'y avait
pas 40 000 phobies.
Sur ce sondage.
Il n'y avait pas 40 000 phobies.
Même Darmanin dit ce matin, en gros, la Fédération
française. On nous dit qu'il y avait 40 000
personnes qui étaient là. C'est pas le même débat.
Après, voilà, c'est un autre débat. Mais
au-delà de ça, supporters anglais.
Au-delà de ça, on est bien tiré
l'autre. C'est important de le dire, Ludovic Mendès, ne peut pas passer rapidement. On a eu des semaines de déni, donc c'est important de vous entendre.
On va se taper des bas dans le pied. C'est bon, on a fait une erreur, ça arrive à tout le monde.
Mais il y a que vous qui avez
fait une erreur.
Non, mais c'est la majorité qui est dans
juste un peu l'image de la
France. Qu'on n'aurait pas dû réagir de cette façon-là.
Sujet,
si on est capable d'organiser,
on n'en tire pas les conséquences. Là, quand Gérald Darmanin il parle,
je peux terminer mon propos.
Non, mais si vous voulez, on peut aussi vous répondre.
Mais non, mais je peux aussi terminer mon propos.
En l'occurrence, vous êtes dans la majorité.
Mais non, mais attendez, vous êtes arrivé une fois. Le jour même, on avait la finale de la Coupe d'Europe.
L'insécurité, vous l'avez découvert.
Ça, sur ce dont on est en train de parler, on ne parle pas d'insécurité en général. On parle simplement des événements. Non, c'est. Mais non.
Allez-y, terminez parce que sinon, vous allez dire que je.
On a organisé le même jour à Marseille la coupe d'Europe de rugby. Il n'y a eu aucun problème.
Mais heureusement qu'il y a des choses qui se passent bien.
Mais c'est notre temps, en fait.
Ouais.
C'est
grave. En général,
vous imaginez, à 99%.
Et il y a eu un train qui est arrivé à l'heure. Formidable.
À 99% du temps, il ne se passe rien. C'est ça, la réalité. Si on est capable d'organiser ça dans les favelas de Rio, on ne peut pas le faire à Paris. Il faut arrêter de se tirer des balles dans le pied.
Mendes, on n'a pas envie que ce soit fait pour la vie. On n'a pas envie de noircir le tableau. On se dit pourquoi des semaines de déni.
Il y a eu un couac, c'est le Stade de France, là, sur la finale de Ligue des Champions. Sinon, à chaque fois, dans notre pays, ça s'est toujours bien passé. Et on a accueilli des événements mondiaux. Tout le temps. Donc oui, moi, je pense qu'il va pas se passer, il va pas y avoir de problème. Tout va bien se passer, tout va être bien organisé.
Madame la Marquise.
C'est la méthode Coué.
Mais c'est pas la méthode Coué, c'est la réalité. Il peut y avoir des couacs de temps en temps, mais dans notre pays, tous les événements qui ont été faits, il n'y a jamais eu de problème.
Dans le sondage, je devine qu'en fait, les Français, même au-delà d'ailleurs de ce que j'ai pensé, je n'ai pas pensé que le niveau d'impact politique, y compris, je suis sûr que ça joue un rôle sur le résultat des élections législatives, l'impact de l'échec de cette organisation par rapport à
carburant
ça,
du RN.
A quand même montré et l'échec et le déni non, par rapport à ça la preuve a eu non. un impact non, public.
Les zones où il y a le plus d'insécurité, ils ont voté France Insoumise ou NUPES, ils n'ont pas voté RN.
Mais les Français,
ceux qui ont voté RN, c'est ceux qui ne sont pas en insécurité.
Je te parle des Français.
Non, vous ne pas dire ça.
Je te parle des Français.
Donc tous ceux qui vivent en dehors de la Seine-Saint-Denis ne sont pas en insécurité.
Non, mais de ceux de la Seine-Saint-Denis, je parle en général. La réalité statistique, elle est là.
Derrière, pour les Françaises et les Français, de voir que leur pays avait du mal à organiser un grand événement à la fois pour accueillir et le fait que les autorités publiques aient minimisé et menti, c'est un double impact. C'est pas simplement la Seine-Saint-Denis, c'est un bout du territoire. Nationalement, je balaye devant ma porte, je pensais pas que l'impact politique serait aussi important. Et donc il est normal qu'il y ait de l'inquiétude aujourd'hui, parce que si on n'est pas capable d'organiser un grand événement de ce type, vu ce que l'impact des Jeux Olympiques sur tout le territoire francilien, et même plus loin, c'est normal qu'il y ait de l'inquiétude.
Sur même, il y a eu trois gros événements. Il y avait Roland-Garros, il y avait la finale de la Ligue des Champions,
alors,
et la finale
de la Ligue de j'ai beaucoup. Alors, Roland-Garros, j'attends de voir quand on va envahir les terrains de Roland-Garros.
C'est des réalités.
Je dis juste,
c'est pas du tout le même public, c'est pas du tout la même ampleur. En fait, c'est un événement.
Ça a mobilisé aussi des policiers, c'est ce que je dis. Je dis pas que c'est. Bien sûr que c'est des populations différentes. Bien entendu que c'est des populations différentes.
Maître.
Oui, non mais je suis d'accord. Enfin, on va remettre un peu de centralité dans ce débat.
Que le jour où il y aura des émeutes lors des tournois de golf, là, faudra en effet vraiment s'inquiéter. Mais...
Parce que là, en l'occurrence, je pense qu'il y a aussi un autre sujet, c'est qu'il y a l'inquiétude vis-à-vis de la sécurité, l'inquiétude vis-à-vis du déroulé, aussi vis-à-vis de l'image de la France. Parce qu'il y a ça aussi qui s'est passé à l'occasion du Stade de France. Ce n'est pas juste un événement indien, c'est devenu un événement international parce que la presse internationale, évidemment la presse anglaise, mais pas que, hein, la presse espagnole en a parlé, la presse américaine en a parlé, en fait toute la presse en a parlé. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu un phénomène dont Darmanin a parlé du bout des lèvres un petit peu, c'est que le sujet majeur ici, c'est pas les faux billets, c'est même pas que la question de l'organisation de l'insécurité, enfin de la sécurité du stade, c'est aussi les populations, les bandes qui sont venues, qui ont attaqué, et qui ont attaqué de manière assez méthodique. C'était bien raconté d'ailleurs dans un article d'un grand journal espagnol dont le nom m'échappe, qu'ils étaient vraiment organisés pour attaquer ces touristes, donc ces spectateurs. Donc maintenant la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que nous allons faire face, et comment est-ce que la France va conserver une image à peu près correcte après ce qui s'est passé au Stade de France. Parce que les images qu'on a vues, c'est des images, pardon, je vous le dis, enfin, je m'excuse même pas, d'une sauvagerie totale. Les récits qui sont faits du chemin du Stade de France jusqu'à la ligne 13, dans un espèce de corridor de la mort, avec des bandes qui arrivent, qui attaquent, qui éventrent les sacs, qui parfois agressent sexuellement, c'était ça l'enjeu majeur.
C'est un problème massif,
maintenant, il en parle un petit peu. Ça, au niveau de l'image de la France, c'est ça le drame, en fait. C'est
voilà,
ça le drame.
C'est pour ça, c'est. Vous avez utilisé le mot.
Mais ce problème n'est absolument pas réglé.
Et quand il y a eu aussi d'autres incidents, je ne sais plus sur quel stade de foot, où des supporters ont envahi le terrain, etc. Je crois que c'est Saint-Étienne, je ne veux pas dire de bêtises.
Oui, mais bon. Là,
et du coup, ça, c'est une chose. Là, le problème, c'est le retentissement. La presse anglaise, espagnole, etc. Donc, pour les Français, il y a quand même de la fierté nationale dans cette affaire-là.
Il y a une blessure d'orgueil.
On est quand même passé intentionnellement pour des nuls avec les questions de sécurité. Et c'est vrai que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, avec son originalité, vous pouvez vous dire que quand tout le monde va défiler sur la scène avec les abords de la scène, il y a quand même intérêt à ce que le système soit très organisé, quoi. Hein. Donc c'est normal qu'il y ait de l'inquiétude.
Oui, mais ça le sera si on évite le déni. Ça ne le sera pas par le Saint-Esprit.
Il n'y a pas de déni.
Il n'y a pas eu de déni pendant deux semaines.
Il n'y a pas de déni. Je veux dire, il y a une reconnaissance aussi des erreurs qui ont été faites. Le préfet de police a reconnu aussi ses erreurs à lui. Donc il n'y a pas de déni. Maintenant, c'est la manière dont on va en parler, la manière dont on va continuer à vendre ce sujet plutôt anxiogène que de dire voilà, il y a eu des erreurs.
Alors là, c'est un sondage.
À partir de là, on en apprend.
Alors, on l'a pas
et on fabriqué. Fait en sorte que ça n'arrive plus jamais. Et ils ont bien reconnu au niveau du dispositif, ce couloir d'étranglement et compagnie était une erreur. À partir de là, ça ne se reproduira pas. Et c'est important de le reconnaître.
Mais il y a des problèmes beaucoup plus larges et beaucoup plus structurels.
Oui, mais là-dessus, on ne sera pas d'accord du tout. Ce n'est pas un problème.
Mais le manque de place.
Mais on ne sera pas d'accord du tout. On n'aura pas la même lecture du phénomène. Ce n'est pas un problème.
Oui, et comme vous n'en avez pas la bonne lecture, le phénomène continue.
Mais voilà, ce n'est pas de bonne ou de mauvaise lecture. C'est qu'on
comme
en a pas la
même lecture.
Comme votre
lecture est totalement erronée,
non.
Eh bien, le phénomène continue.
Ça, c'est votre point de vue. Là, ce n'est pas qu'une histoire de point de vue. C'est une histoire de fonctionnement. Les chiffres veulent dire des choses, mais au-delà des chiffres.
Ce n'est pas une question de point de vue, c'est ça, elles sont réelles, non ? Quelles que soient les couleurs politiques.
Derrière, moi, je pense que sur la parole publique, par exemple, le fait que les images de la vidéosurveillance étaient au bout d'une semaine et disparues, tu sais très bien qu'une n'importe quelle police municipale garde ses vidéos pendant 15 jours.
On va espérer que pour notre pays.
La protection de la CNIL et du RGPD,
vous le savez. Oui, c'est 15 jours, c'est pas une semaine.
7 jours.
Et pourquoi vous me demandez ça? Moi, je suis pas juge.
Non, non, mais là, vous défendez la majorité. Alors,
non, c'est un juge de demander.
Il y a 7 jours.
Non. C'est un juge de demander.
Si, non, l'État peut le demander. Le procureur peut le demander. L'État peut le demander aussi. Pourquoi est-ce que l'État... D'ailleurs, Darmanin a dit devant la commission au Sénat qu'il avait demandé ces images de vidéosurveillance. Pourquoi est-ce qu'on
mais
les a
lui, peut-être, mais là, c'est pas. C'est à la police et au tribunal.
Les auditions, les auditions, si on va marquer une courte pause, ce qu'on peut espérer, c'est que des leçons soient tirées.
Mais
c'est
non,
ça.
Mais non,
ben
non,
oui, mais c'est une. J'ai dit ce qu'on peut espérer, j'ai pas dit qu'une leçon. Après, c'est vous qui faites le débat. Une pause et d'autres sujets à venir. Dans Midi News, deux sujets majeurs à venir, l'école et l'hôpital. On en parle juste après les titres, c'est News Info.
Jour J pour l'ouverture du sommet de l'OTAN à Madrid. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Alliance Atlantique se retrouvent dans la capitale espagnole aujourd'hui. La guerre en Ukraine et les derniers bombardements russes seront au cœur des discussions. Le moral des ménages en baisse au mois de juin. Selon l'INSEE, l'indicateur qui synthétise la confiance des ménages perd 3 points sur un mois. Les ménages sont pessimistes sur leur situation financière et l'évolution du niveau de vie. Et puis des températures extrêmes touchent actuellement la Chine. Vous le voyez sur ces images à Zhengzhou dans le Henan. Des milliers de personnes affluent sur les plages. Les habitants ont d'ailleurs pour consigne de rester chez eux en cas de température supérieure à 40 degrés.
Des professeurs qui manquent à l'appel, une pénurie, enfin, pas exagérer le mot, mais en tous les cas, un manque d'enseignants, des postes qui restent vacants, c'est aussi la réalité de nos écoles. Alors, y aura-t-il une pénurie à la rentrée? Le ministre de l'Éducation affirme que non, il y aura un professeur dans chaque classe. Focus en Gironde. Regardez, c'est résumé par Jérôme Rampenou.
Dans ces écoles d'un quartier bordelais, l'année a été très difficile. Trop de professeurs ont été absents et pas remplacés. Alors, les parents d'élèves s'inquiètent déjà pour la prochaine rentrée.
Sur l'année, il y a des enfants qui n'ont pas eu de classe depuis novembre, d'autres depuis mars. Ça donne des enfants qui sont en retard par rapport au programme, qui sont en retard par rapport à leurs camarades de classe qui sont dans les mêmes niveaux. Et ça donne des enfants qui ne veulent plus aller à l'école, qui font des dépressions.
Du coup, on s'inquiète surtout du rattrapage qu'il va falloir faire en CM1 et donc du retard qu'elles pourront prendre en CM1.
Les parents ne peuvent pas se résigner à ce manque de moyens. Dans l'éducation nationale.
On ne peut pas sacrifier leur enseignement, on ne peut pas sacrifier leur éducation. Il faut trouver du budget, il faut embaucher, il faut enfin titulariser.
Pour les syndicats, la situation n'est pas isolée. Beaucoup d'établissements en Gironde ont souffert d'un manque de professeurs et de remplaçants.
Il y aurait des solutions, hein, faire appel aux listes complémentaires, faire appel à des entrants dans le département. Mais tout ça, ce n'est pas budgétisé en fait. C'est, ce qu'on demande, c'est un vrai plan d'urgence pour pouvoir connaître une année normale.
Une manifestation est organisée ce mercredi après-midi devant l'inspection académique pour réclamer des postes d'enseignants et des remplaçants supplémentaires dès la rentrée prochaine.
Bon, monsieur le professeur.
Oui.
Bon, c'est pas votre cas. Il y a pas de en philo pour les.
Bah, moi, je suis là en tout cas.
Ouais, bah, oui, bah, donc pas en classe.
Ça, ah non, mais c'est les jours où j'ai cours, je suis devant mes élèves.
Ah non, mais je sais bien. C'est pour ça que je vous remercie de votre présence là.
Hein.
Non mais. Souvent, je vois que ce sont parfois... Là, on a été étonnés quand même. Une absence depuis novembre.
Oui, ben, c'est pas nouveau. Il y a des matières où... Alors, où moi, je connaissais des élèves dans un autre établissement qui n'avaient pas eu de cours de... C'était dans un établissement parisien, en terminale, à l'époque où il y avait encore des terminales S, terminale scientifique, pas de prof de maths pendant 4 ou 5 mois, à Paris.
Moi, ça n'arriverait pas à l'école alsacienne,
ça n'arriverait pas à l'école alsacienne. Mais vous voyez que déjà, c'est un phénomène global qui ne touche pas que l'école. Je voyais ce matin, il y a une pénurie aussi des maîtres nageurs sauveteurs hein, sur les plages cet été. Pour emmener les enfants à l'école, on est en train de chercher 8000 chauffeurs de bus. Donc globalement, ce phénomène, dans un pays où il y a pourtant 6 millions de chômeurs, il y a quand même quelque chose d'un peu étrange. On a l'impression qu'il y a une pénurie dans énormément de corps de métier. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que c'est un métier qui est quand même globalement assez mal payé et où... Les jeunes professeurs, notamment en collège, ce n'est pas mon cas, mais en collège, vont faire leurs premières armes dans des établissements extrêmement difficiles. Donc, être mal payé...
pour se prendre une chaise sur le coin de la figure et se faire insulter, c'est pas forcément le meilleur calcul. C'est ça le problème. Vous savez très bien que si vous êtes prof de maths, de français, d'anglais, vous allez vous retrouver dans un établissement extrêmement difficile, où d'ailleurs la plupart des élèves sont très sympathiques, mais où il y a une minorité violente qui est suffisante pour tout perturber et vous pourrir la vie, et ces enseignants savent que globalement, ils ne seront pas soutenus par le système. Donc c'est sûr que pour des jeunes profs, alors moi j'ai pas à me plaindre parce que j'ai que des lycéens, mais enseigner en collège, c'est devenu potentiellement cauchemardesque. Voilà, et pour être très mal payé.
Alors je pense qu'on a fait un choix malheureusement depuis longtemps, c'est que aujourd'hui, en gros, faut être bac plus 5 pour être professeur, hein, pour avoir son CAPES, ou même pour être professeur des écoles. J'ai vu que même pour être CPE dans un lycée, maintenant c'est bac plus 5. Donc le niveau d'études n'a cessé d'augmenter, et le niveau de la rémunération n'a pas suivi. Donc aujourd'hui, vous avez un niveau, vous êtes bac plus 5, vous avez un master de maths par exemple, bah, je veux dire, les entreprises privées vont vous payer beaucoup plus que les 1900 euros d'un salaire d'un prof débutant. Donc les gens, ils font un arbitrage. Donc on dit, les profs, ils ont les vacances. Mais à un moment donné, les gens, ils ont un problème de pouvoir d'achat avant d'avoir des questions de vacances. Et donc quand vous êtes bac plus 5...
Mais c'est un problème, c'est l'obsession française pour les diplômes. On n'a pas cessé d'augmenter les
prérequis. On peut aussi, comme dans d'autres pays en Europe, se mettre à avoir un niveau de rémunération qui est lié au niveau de diplôme qu'on exige.
Comme donc aujourd'hui, les professeurs sont bien mieux payés en Italie, par exemple.
Pardon ?
Les professeurs sont bien mieux.
Voilà, donc aujourd'hui, toutes les matières scientifiques, vous êtes prof de maths, vous avez un niveau bac plus 5 en maths, en physique, je veux dire, la personne, où il est totalement amoureux de l'éducation, il va rentrer, autrement, dans n'importe quelle entreprise, il va être beaucoup, beaucoup mieux payé. Voilà, donc, et sur la durée, et sur aussi, il y a le salaire d'entrée, il y a l'évolution professionnelle et l'évolution.
Vous savez comment ça se passe quand il y a un professeur qui manque là depuis des mois ? Souvent, ce sont des associations de parents d'élèves qui vont, une sorte de chasse aux professeurs pour le remplacer, qui vraiment, sur les réseaux sociaux, partout, et qui vont aller solliciter soit des professeurs retraités, soit des étudiants aussi. Et qui, parfois, c'est le système...
Là, sur la question d'absentisme, vous avez, par exemple, les congés maternité qui ne sont pas intégrés dans le dispositif de remplacement. Et donc, du coup, quand un prof il est absent 6 mois... Non, mais nos téléspectateurs peuvent se dire pourquoi un prof est absent 6 mois. Vous avez un certain nombre de congés maternité.
Mais j'ai retenu la déclaration du ministre de l'Éducation nationale. C'est pour ça que je disais un peu l'école alsacienne. Mais pardonnez-moi, je parle...
Oui, il faut déconner.
Je parle des enfants en nom du ministre de l'Éducation. Mais il a dit qu'il n'y aura pas un professeur manquant dans une classe. Je me rappelle, il n'y aura pas un SDF dans la rue. C'est des promesses nobles, mais difficiles à tenir, reconnaissons-le.
Il y a intérêt à la tenir, la promesse.
On a des difficultés, c'est qu'au-delà du master, on a beaucoup de personnes aussi qui n'arrivent pas à passer les concours de CAPES. Il y a aussi ces réalités. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des vacataires qui n'ont pas le concours de CAPES et qui n'intégreront pas le niveau. Le système. Parce que malheureusement, ils n'ont pas le niveau adéquat. Pour faire, il faut en parler aussi. Donc il y a cette problématique d'entrée parce qu'on n'a pas le concours. On a une crise de la vocation qui date depuis longtemps. Pour les collèges, ça a changé. On n'envoie plus les jeunes profs dans les quartiers les plus difficiles. Au contraire, on envoie les personnes les plus expérimentées pour mieux accompagner.
C'est une lente modification.
Mais ça marche plutôt bien. Il y a encore, malheureusement, quand il y a encore besoin, on envoie aussi les personnes qu'on a ces derniers temps. D'autres reviennent sur leur territoire de départ, parce que souvent on les envoie loin de la maison parce qu'on part du principe que c'est mieux d'être très loin. On avait déjà un niveau master avec l'école des maîtres à l'époque, ça n'a pas changé.
Mais alors qu'est-ce qu'on fait ?
Il y a plein de choses à faire.
Je crois
que c'est collectif, c'est-à-dire que l'État ne peut pas.
Mais depuis novembre, vous imaginez ?
Les parents ont un vrai rôle à jouer. Pour certains, ils n'ont toujours pas compris que quand le prof dit quelque chose, le prof a raison. Et ça, il y a une réalité. C'est-à-dire qu'on parle des enfants difficiles, mais on a un vrai problème avec les parents. J'ai des amis enseignants ou professeurs autour de moi. La première chose qui me parle, c'est le problème avec les parents majoritairement. Les gamins, ils arrivent à peu près à les tenir. On a des problèmes en lien avec la laïcité, avec des certaines paroles, avec certains comportements et certaines violences. Mais quand ils sont pris en charge, en général, et éloignés de la famille, ça fonctionne. Mais quand la famille revient pour menacer le prof, je suis d'accord qu'on n'a pas envie de travailler tous les jours dans ces conditions-là. Et c'est normal qu'on doive mieux les protéger. Donc, faut trouver des systèmes ad hoc au sein de l'ééducation nationale aussi. Pour avoir des cellules d'écoute et d'accompagnement. Et c'est pour ça que je parle de système ad hoc.
Il faut qu'il y ait un vrai soutien. Moi, j'ai vu.
Mais il n'y a pas de hiérarchie dans l'éducation nationale.
Oui, mais d'accord. Mais la hiérarchie.
Demandez à n'importe quel enseignant, vous dira qu'il n'y a pas de hiérarchie dans
l'éducation
académique. Mais à un moment donné, quand tu as un inspecteur d'académie qui demande à un directeur d'école, comme j'ai eu l'occasion de s'excuser auprès de parents, mais je veux dire, son autorité est carbonisée pour l'année.
Pour ne pas faire de vagues, pour ne pas créer de problèmes.
Oui, mais à un moment donné,
ça dépend des histoires. Après, ça dépend des histoires. Mais globalement, il faut protéger
les enfants sont dans l'école privée, personne rigole.
Non, mais bien sûr.
Tout le monde suit les directives. Parce que, autrement, les gens peuvent se faire sortir.
Donc à un moment donné, il y a la question, on l'évoquait tout à l'heure, sur l'autorité. Si à un moment donné, les parents n'ont pas en tête que le directeur de l'école, le professeur devant, il a l'autorité,
mais c'est open bar. On a des écoles où on n'a plus non plus de mixité de fonctionnement. C'est-à-dire que les écoles primaires et élémentaires sont gérées par les communes, les collèges par les départements et les lycées par les régions. On a des cartes scolaires qui ne correspondent plus à ce qu'on doit faire. On a des personnes... Non, mais c'est une réalité. Et il faut, tant qu'on ne donnera pas envie aussi aux enseignants d'aller dans certains collèges, d'aller dans certains lycées, ça ne marchera pas.
Ça participe du truc de dire qu'il faut donner envie de mettre les enfants à l'école publique quand la plupart de ceux qui donnent des leçons les mettent à l'école.
On pourrait tout à fait avoir un système de rémunération variable.
C'est en cours.
Oui, mais c'est le cas.
On va laisser.
Ils sont mieux payés aujourd'hui dans ces quartiers-là.
Pierre Gentil et Jean-Loup Bonamy, allez-y.
Oui, alors juste pour dire en fait qu'à mon avis, il n'y a pas une cause, il n'y a pas une seule raison. Et là, vraiment, pour le coup, on ne peut pas expliquer le désamour de la profession. Des gens qui entrent dans la profession, de même aussi, parce qu'il y en a qui en sortent. Qui arrêtent la profession. Moi, j'ai connu plusieurs enseignants, même de mes enseignants. Je me rappelle ma prof de français, elle me disait que c'était la dernière année qu'elle faisait cours, alors qu'on n'était pas pour autant un lycée difficile, mais pour tout un tas de raisons. Et c'est là où, en fait, le problème, vraiment, il n'y a pas une seule cause. C'est pas uniquement une histoire de rémunération. C'est une question de rémunération. C'est une question de considération. C'est une question aussi, vous l'avez dit, parfois de soutien de la hiérarchie. C'est aussi parfois un certain étouffement intellectuel. Moi, j'ai un ami qui est professeur d'histoire qui m'expliquait que, mais dans la pédagogie d'enseignement, il est systématiquement fliqué par les inspecteurs, par l'académie. Il a très très peu de marge de manœuvre et il a l'impression même aussi parfois d'enseigner les choses. Il dit mais en fait ça ne correspond pas du tout à ce qu'il faut faire pour les enfants. Et puis je termine juste en un mot, pardonnez-moi Sonia, mais il y a aussi effectivement souvent faut le dire, des endroits où les professeurs ne restent pas longtemps parce qu'ils ne veulent pas y aller, parce que c'est un enfer, parce qu'ils n'arrivent pas à imposer leur autorité en classe. Et là on peut parler effectivement de tout un tas de lycées, de collèges. Le pire, c'est souvent le collège de banlieue, effectivement. Donc, c'est un problème qui est global, vraiment global.
Mais ce que je voulais ajouter, c'est ce que vous décrivez, c'est incroyable parce qu'on peut le calquer, le transposer sur la situation des soignants. Vous dites rémunération, considération, ou en tous les cas, rémunération trop faible, manque de considération, manque de soutien. C'est ce qui se passe aussi pour nos soignants. Et nous sommes avec... pourquoi ? Parce que je voudrais vous parler de la situation au CHU de Bordeaux. Vraiment, le CHU de Bordeaux, j'insiste, c'est vraiment l'un des plus gros de France. Pour le connaître, c'est presque un état dans l'état. C'est une grosse machine. Donc, un tel mouvement social au CHU de Bordeaux, il faut le prendre au sérieux. Nous sommes avec Gilbert Mouden. Je vous remercie de nous avoir attendu, d'avoir patienté. Monsieur, vous êtes délégué syndical Sud Santé. On vient d'évoquer là les soignants. Gilbert Mouden, on a parlé d'un manque, évidemment, à la rémunération, considération et soutien. Est-ce que vous vous retrouvez finalement dans ces considérations, dans ces revendications-là ?
Ah oui, tout à fait. C'est aujourd'hui les principales problématiques hospitalières. C'est manque de considération, souffrance au travail, des conditions de travail qui sont déplorables en lien avec des organisations de travail en sous-effectif et qui ont amené progressivement le personnel à l'épuisement, au ras-le-bol. Et aujourd'hui, on est dans une situation dramatique à la veille de l'été et on est très, très inquiet pour la période estivale qui arrive là sur le CHU de Bordeaux. Oui.
On entend ce que vous dites, on entend la sonnette d'alarme que vous tirez, vous dites situation dramatique. Et les débats en ce moment, je ne dis pas qu'ils n'ont pas lieu d'être, mais on parle du masque et on parle du pass sanitaire. Est-ce qu'il n'y a pas une distorsion entre la réalité de l'hôpital et on devrait être tous à son chevet et finalement les débats publics et politiques que nous tenons selon vous ?
Ah oui, et puis cette situation hospitalière, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'après la crise sanitaire. Nous, ça fait plus de 5 ans déjà qu'on dénonçait la situation au CHU de Bordeaux. Notre ancien directeur général nous disait qu'on exagérait la crise hospitalière, mais non, pas du tout. Et la preuve, on en est là aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit ce matin à notre directeur général en CTE, c'est qu'on a laissé les choses se faire, on a enlevé les crédits, on a enlevé les poules de remplacement, plein de choses se sont dégradées progressivement et on a amené les gens dans un état de ras-le-bol, d'épuisement, des professionnels en place qui ne veulent plus rester, des nouveaux professionnels qui ne veulent plus venir. Et là, on se retrouve dans une situation grave parce qu'il faut continuer à soigner, il faut continuer à faire tourner l'hôpital. Et on parle beaucoup de la crise des urgences, la problématique des urgences. C'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt actuellement parce que ça va mal dans beaucoup de services. Et on arrive avec une perspective de 600 lits fermés sur le CHU de Bordeaux pour cet été et des patients qui vont continuer à arriver, qu'il va falloir hospitaliser derrière. Donc comment on va faire ? L'ensemble des structures privées, publiques, du département et de la région vont être aussi en difficulté. Donc un établissement comme Bordeaux, c'est le navire amiral un petit peu de la médecine sur le département. Donc si nous aussi on est en grande souffrance, ça va être compliqué pour prendre en charge les patients correctement. Oui.
Gilles Merboudet, l'hôpital, c'est le miroir de notre société. Quand l'hôpital va mal, c'est aussi le signe d'une société qui ne prend pas suffisamment en compte, en considération, d'abord les soignants et aussi les patients, tous les citoyens que nous sommes. Comment vous expliquez, vraiment, c'est une vraie question, qu'il n'y ait pas eu ce sursaut? On a tant parlé de l'hôpital pendant le Covid, qu'il fallait tout changer, qu'il y aurait un avant et un après. Vous qui êtes dans la machine, comment vous l'expliquez?
Mais notre président de la République l'a dit lui-même, au début de crise sanitaire, il faut s'en rappeler, on est en guerre, l'hôpital, on avait une considération énorme, l'hôpital de demain allait être différent de l'hôpital d'aujourd'hui. Ben oui, il est différent parce qu'il est encore plus dans une situation dramatique, mais les moyens n'ont pas été mis en place. Ce Ségur de la santé que nous, au niveau du syndicat Sud Santé Sociaux, on a dénoncé depuis le début, où il y a eu une énorme communication là-dessus, avec des revalorisations de salaire extraordinaires, des effectifs qui allaient arriver, ben on les a pas vus. Revalorisations de salaire, elles n'ont pas été à la hauteur. De nombreux professionnels n'ont pas été revalorisés, tous les agents administratifs, tous les agents du technique. Et pour les soignants, ça a été des revalorisations qui ont été insignifiantes. Nous, au niveau du syndicat Sud, on demandait plus de 400 euros pour tous les agents de la fonction publique hospitalière. Et ça n'a pas été fait aujourd'hui. Alors maintenant, on accorde des primes à certains quand ils travaillent dans certains endroits, en réanimation aux infirmiers, mais pas aux aides-soignants. Pour les sages-femmes, on a une petite prime. Mais c'est pas ça. C'est de véritables revalorisations de salaire et les effectifs qui vont avec. Et les effectifs, on les voit pas venir. On a été obligé de faire un mois de grève sur l'hôpital des enfants, à titre d'exemple, hein, pour avoir quelques puéricultrices de plus.
Et je vais vous remercier.
C'est pas normal.
Bien
c'est
sûr,
pas normal.
On entend vos revendications. Et vous l'avez dit, hein, le CHU de Bordeaux, on s'y est arrêté. C'est énorme. Vraiment, c'est l'un des plus importants de notre pays. Merci pour votre réaction, votre témoignage, les titres, et puis on va en parler. C'est News Info, c'est tout de suite.
Clap de fin pour le sommet du G7. Depuis dimanche, les chefs d'État et de gouvernement étaient réunis en Bavière pour évoquer notamment la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, Emmanuel Macron assure que les sanctions envers la Russie seront maintenues aussi longtemps que nécessaire. Le salaire des fonctionnaires augmentera le 1er juillet de 3,5%. L'annonce a été faite par Stanislas Guérini, ministre de la Transformation publique. Il s'agit de la plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans. Et puis le Japon, touché par des températures records. À proximité de Tokyo, le mercure a dépassé les 40 degrés pour la première fois au cours du mois de juin. Face à cette vague de chaleur, les autorités japonaises craignent une pénurie d'électricité.
Je faisais le lien entre école, hôpital, etc. Quelles que soient les revendications, moi je ne veux pas rentrer dans un débat syndical ou politique, c'est vrai, on devrait tous être derrière nos soignants et nos professeurs, ça va de soi.
On l'est tous, sauf que ce qui est demandé, il y a des infirmières là qui sortent de formation, elles vont intégrer ces hôpitaux. Il y a une mission qui est faite par le docteur Baud en cours, responsable des urgences de l'hôpital Mercy à Metz et président du syndicat.
Pourquoi des médecins. Il faut une mission. Qu'est-ce que vous ne savez pas?
Parce que les problématiques ne sont pas les mêmes. Je n'ai pas les mêmes problématiques à Metz qu'à Bordeaux. Sinon, le personnel part au Luxembourg. Parce que là, il y a un écart salarial. Mais ils travaillent beaucoup plus et les conditions de travail ne sont pas meilleures qu'ailleurs. Donc, il y a cette réalité aussi à raconter. C'est pour ça qu'on a missionné quelqu'un. Et le docteur Braun va apporter cette réponse, justement, au président de la République. Mais quoi qu'il arrive, même si on claquait des doigts, on n'aurait pas de réponse. On n'a pas le personnel suffisant. Il dit on réclame du personnel. Mais on aimerait mettre du personnel dans nos hôpitaux. Mais on ne l'a pas aujourd'hui.
Ce sera le mot de la fin, en un mot. Sursaut, je l'ai trouvé pour vous.
Avant sursaut, le concept. Déjà, on parlait de Bordeaux. À Bordeaux, bon, ça paraît anecdotique, mais il y avait par exemple l'école de santé navale qui dépendait du ministère de l'Armée, qui a été fermée. C'était il y a 10 ans. Et on s'est dit au moment de la crise sanitaire qu'on allait faire appel à la médecine militaire, puisqu'on était théoriquement en guerre, d'après les propos du président de la République, mais on s'est rendu compte qu'en fait, cette médecine militaire elle-même, elle avait été sabrée, que beaucoup de choses avaient été fermées. Et enfin, si on veut faire la conclusion de l'émission, du début à la fin, qu'est-ce qu'on a vu avec l'ERA à Paris, avec le Champ de Mars, avec le crack, professeurs qu'on ne recrute plus, avec l'hôpital, c'est ce que j'appelle le syndrome du grand délitement. On voit qu'il y a une crise structurelle dans la société française.
C'est pour la société, c'est à un moment donné, tu démantèles un État, tu as les résultats.
Et que globalement, voilà, tout est en train de s'effondrer dans l'un des pays où, par ailleurs, le taux d'imposition et de prélèvement public est le plus élevé arriver au monde.
Vous m'écrivez un livre.
Voit, en fait, que tout s'effondre.
C'est pas la société qui s'effondre, c'est ton État que tu as démantelé progressivement.
C'est pas l'État, c'est la société aussi.
Oui, c'est la société aussi. Enfin, l'État, à un moment donné, quand tu as une vague de néolibéralisme où tu démantèles l'État, tu as le résultat.
Mais
l'État,
c'est la débat. Et on dit à demain, téléspectateurs, merci et restez avec nous sur CNews, évidemment.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.